bien, alors mes chers amis, nous allons commencer. Je vais vous parler de quelque chose qui n'est pas, n'attendez pas quelque chose qui soit une nouvelle découverte explosive, parce que ce sont des banalités que tous les spécialistes, je vais vous parler de questions, de découvertes qui sont banales et connues de tous les spécialistes. Cependant, c'est quand même relativement nouveau, en ce sens que depuis une trentaine d'années en Israël, l'archéologie a véritablement explosé. La découverte, la recherche des autorités israéliennes, la recherche des racines de la Jérusalem de l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ a permis de mettre à jour un très grand nombre de sites, des monnaies, des documents. Vous avez entendu parler aussi de la découverte du site de Qumran, avec je crois qu'on a trouvé environ 500 manuscrits dans les différentes grottes de Qumran. Je vous en parlerai tout à l'heure. Qumran était le centre religieux d'une secte juive dissidente appelée les Esséniens. Et maintenant, on arrive à bien les connaître. L'ensemble de l'archéologie, et la paléographie, la découverte de manuscrits anciens, donne un relief tout particulier au récit de l'Évangile, des actes des apôtres, des épîtres de saint Paul, et permet de mieux comprendre, de mieux connaître une église qui avait pratiquement été oubliée, qui pourtant à l'époque des apôtres était le centre de mire de tous les chrétiens dans tout l'Empire romain, l'église de Jérusalem. Cette église avait ce site particulier qu'on peut l'appeler l'église judéo-chrétienne, parce qu'elle était constituée à 100% d'Esséniens, extrêmement attachés à tout leur rite, à la loi de Moïse et à leur particularisme essénien, et qui pratiquaient à titre de forme de piété personnelle, qui leur était tellement habituelle que ce n'était pas une charge, toute la loi de Moïse, tout en étant complètement chrétien, c'est-à-dire que le culte était bien la messe, ils recevaient bien tous les sacrements, mais ils demeuraient tout en se confessant, ils pratiquaient les ablutions rituelles qui étaient antérieurement propres aux Esséniens, ils montaient trois fois par jour au temple faire leurs prières, et ils avaient un certain nombre de caractéristiques. Ils ont été quasiment oubliés pour diverses raisons. D'une part, côté juif, tout a été fait, à partir de 83, pour faire disparaître toutes les traces, toutes les synagogues chrétiennes, car il y en avait tout un réseau, je vous en parlerai tout à l'heure, en Judée, disparaître tous les rouleaux des évangiles qui se trouvaient dans ces synagogues. Et du côté chrétien, du fait d'une certaine amertume après la destruction de Jérusalem, cette communauté juive s'est refermée sur elle-même, a traité avec une grande hostilité les Grecs qui avaient été installés dans Jérusalem par le pouvoir romain avec leur évêque grec. Cette rivalité a créé une division de frères ennemis, ce qui fait qu'on ne parlait pas d'eux. Et dans les pères de l'Église, on a quelques rares documents nous restent de cette époque de l'Église judéo-chrétienne, mais la plupart des renseignements venaient de Flavius Joseph quand il parlait des Esséniens. Et puis des indices, on pouvait faire quelques déductions à partir des épîtres de saint Paul. Avec les manuscrits de Qumran et la reconstitution archéologique de Jérusalem mise en œuvre depuis une trentaine d'années, on a maintenant une connaissance remarquable. Surtout, on peut avoir la quasi-certitude qu'il y avait à peu près 10 000 personnes, 10 000 habitants de Jérusalem, un bloc compact, le quartier essénien, qui est devenu totalement chrétien. Et c'est ce quartier essénien qui a mené l'apostolat chrétien dans toute la Judée et la Samarie. Et vous verrez les indices qui nous donnent à penser que les actes des apôtres n'exagèrent pas quand ils disent que toute la Judée, toute la Samarie était devenue chrétienne. Alors ces faits-là sont connus, mais côté catholique, ils ont fait exactement comme si ça n'existait pas, parce que ces découvertes mettent en cause tout le modernisme. L'idée que l'Évangile aurait été inventé, le produit de l'imagination de la communauté primitive vers l'an 200, des Grecs, pas des Juifs, et rien à voir avec notre Seigneur Jésus-Christ, quoi. Bref, étant donné que ça met en... Alors, ils font exactement comme si ça n'existait pas. Le jour où un archéologue, j'ai oublié le nom de l'archéologue, le père, c'est pas très grave, a identifié a identifié deux passages de l'Évangile dans des manuscrits de Qumran, ensuite un passage de l'Épître de Saint-Pierre, deux passages des Épîtres de Saint-Paul, un passage des Actes des Apôtres, où on avait, et puis la jarre dans laquelle on a retrouvé les papyrus avait la mention Rome, et elle se trouvait avec toutes les autres jarres des manuscrits de Qumran, c'est la grotte 7. Eh bien, il y a eu un barrage, et le barrage n'est pas venu ni des francs-maçons, des athées, ni des juifs, il est venu des catholiques qui ne voulaient pas entendre parler de ça. Il a fallu que la plus haute autorité en papyrologie, la plus haute autorité mondiale, mette tout le poids de son autorité pour la reconnaissance de l'authenticité de ce manuscrit. Et ça fait partie des nombreuses preuves qui permettent d'affirmer avec certitude que les Esséniens sont bien tous devenus chrétiens. Côté juif, on le sait aussi qu'il y avait une partie importante, côté juif non chrétien, on sait qu'il y avait une partie importante, les archéologues le reconnaissent tous, de Jérusalem qui était devenue chrétienne, mais cette idée n'est pas très sympathique aux rabbins. On ne peut pas dire qu'il y a un barrage, une hostilité aussi bétonnée qu'on l'a du côté des autorités modernistes dans l'Église catholique. Mais on ne peut pas dire non plus qu'on clame sur les toits à grands coups de trompette. Alors voilà pourquoi ce que je vais vous dire n'a rien d'original, c'est connu de tous les spécialistes. Simplement, ordinairement, les catholiques ne le connaissent pas. C'est une question qui m'a toujours intéressé, enfin qui m'a intéressé depuis très longtemps, et j'étais très content de découvrir petit à petit ce que je vais vous raconter ce soir. Ça m'a intéressé le jour où j'ai étudié, il y a bien des années, la prophétie de Daniel. Je pense que vous connaissez la prophétie de Daniel, dans laquelle il donne à la date de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ à partir de la date de reconstruction du Temple. Et dans la prophétie de Daniel, alors je vous en lis juste un passage, la prophétie est donnée en semaine d'année, l'exil à Babylone qui a duré 70 ans dure une semaine d'année, et depuis la reconstruction du temple, le Saint-Esprit donne à Daniel des échéances en semaine d'année, par tranche de 70 ans. Et je ne vous relis pas la totalité de la prophétie, mais ce qui est intéressant, c'est... Après 62 semaines, le Christ sera mis à mort, il n'aura plus le peuple qui est à lui, et la ville sanctuaire, et le chef d'un peuple qui a cours sur eux le détruira, et leur fin aura lieu dans le débordement, jusqu'à cette ruine finale, guerre et dévastation décidée. Il confirmera l'alliance avec plusieurs dans une semaine. Au milieu de cette semaine, il fera cesser le sacrifice et l'oblation, et l'abomination, cause de dévastation, sera dans le temple, et la désolation sera jusqu'à la fin. Alors, le milieu de cette semaine, où les sacrifices du temple cessent d'avoir leur valeur sacrificielle, c'est le moment où le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ est offert. La réalité fait que toutes les figures cessent d'avoir une valeur prophétique du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, puisque le sacrifice est bien réalisé. Mais vous noterez que c'est au milieu de cette semaine. Or, la prophétie de Daniel dit que pendant toute la semaine, il en réconciliera plusieurs. Pendant longtemps, je me disais que ça veut dire que le peuple juif, comme normalement peuple sacerdotal destiné à annoncer le Christ aux nations, n'est pas rejeté. Il est pendant 35 ans. 33, mort de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la moitié de la semaine. Sur les 70, il reste 35 ans. Et qu'est-ce qui reste pendant ces 70 ans? Eh bien, pendant ces 35 ans, c'est de cela que je vais vous parler, une église chez lesquels les juifs n'ont pas l'impression d'une rupture, n'ont pas l'impression d'un rejet de la loi de Moïse, et dans laquelle, normalement, ils doivent se sentir comme un poisson dans l'eau, mais qui est chrétienne. Et c'est, on voit la miséricorde de Dieu qui a vraiment tendu la perche en maintenant tout à fait jusqu'au bout, tout ce que jusqu'en 70, une église chrétienne qui était là comme témoin, quelque sorte pour tendre la perche de la miséricorde. Pendant toute cette période, et s'ils avaient été fidèles, qu'aurait-on pu dire? Eh bien, on peut dire que le siège de Pierre n'aurait pas été Rome, mais Jérusalem. Nous allons voir que Pierre a bien été l'évêque de Jérusalem, et pendant ces 70 ans, on voit de façon claire dans les actes des apôtres et dans les épîtres de saint Paul et dans les autres épîtres que c'est Jérusalem qui est centre de l'attention de tous les chrétiens et non pas Rome, momentanément, jusqu'en 70. Vous voyez, la communauté chrétienne qui sert de point de repère ou de référence au point de vue doctrinal, c'est la communauté de Jérusalem. Et probablement, s'il s'était converti, c'est-à-dire que s'il aurait fallu que le grand prêtre se convertisse, s'il s'était converti, la langue liturgique aurait été l'hébreu. Et pas les langues des païens, donc le grec et le latin. Était-ce inimaginable? Eh bien, vous allez voir qu'il y a des documents qui étaient considérés comme invraisemblables. Un document, c'est un écrit d'Hégésippe concernant Saint Jacques le Mineur, l'évêque de Jérusalem, le grand évêque de Jérusalem, qui a été évêque pendant une vingtaine d'années, pendant laquelle la communauté chrétienne a connu une relative paix dans Jérusalem, et qui était respectée, qui était honorée par tout le monde. Il semble, il y a un document que tout le monde considérait comme incompréhensible ou comme impossible, qui dit que Saint Jacques le Mineur aurait été grand prêtre. Il n'est pas dans la liste des grands prêtres, vous allez voir, je pourrais vous donner toute la liste des évêques chrétiens de Jérusalem, toute la liste des grands prêtres qui sont succédés depuis Anné Caïphe, la liste des gouverneurs romains. Dans la liste des grands prêtres, on n'a pas Saint Jacques le Mineur. Il n'est pas impossible que très brièvement, ne fût-ce que 6 mois, pendant la valse des grands prêtres, Saint Jacques le Mineur se soit trouvé grand prêtre. Parce qu'il avait tant dans Flavius Joseph que dans Hégésippe, Hégésippe n'est pas un plaisantin, c'est un écrivain ecclésiastique de la génération postérieure aux apôtres, donc pour qui la tradition, les faits sont relativement récents. Il a connu des gens qui ont connu l'époque de Saint Jacques le Mineur. Hégésippe atteste que Saint Jacques le Mineur, même parmi ceux qui n'étaient pas chrétiens, avait un prestige tel qu'il a fallu lui tendre un piège, mais que le grand prêtre, les Sadducéens, parce que finalement les plus acharnés ont été jusqu'au bout les Sadducéens n'osaient pas attaquer de front Saint Jacques le Mineur tellement il était populaire parmi le peuple à Jérusalem. Donc cette hypothèse que le grand prêtre devienne le premier pape en quelque sorte, vous voyez, c'est une hypothèse qui, on a l'impression que ça s'est joué à très peu de choses, le basculement, la reconnaissance de Jésus-Christ comme le Messie par Israël. On a l'impression que ça s'est joué à très très peu, et puis ça a échoué. Alors, avant d'aborder l'entrée, quoi, destinée à vous mettre en appétit, vous voyez qu'il y a des choses déjà intéressantes à découvrir et solidement étayées sur de la documentation. Avant d'aborder la partie centrale, il faut que je vous traite un petit peu le contexte géographique et historique. Quelle est la situation à l'époque de cette église judéo-chrétienne? Eh bien, la Judée, vous le savez, est occupée par les Romains. Le pouvoir religieux est tenu par le grand prêtre qui se trouve exclusivement choisi parmi les Sadducéens, même s'il est nommé tantôt par les derniers rois de Judée, tantôt par le gouverneur romain. Les pharisiens sont un groupe de pression qui ne cherche pas à avoir les pouvoirs politiques directement, mais avec lequel tout le monde est obligé de compter, aussi bien les Romains que les rois potiches installés par les Romains, que les grands prêtres. Tout le monde est obligé de compter parce qu'ils sont quadrillés, ils ont une influence énorme sur la population, ils ont quadrillé toute la Judée. Les Esséniens, nous allons en parler, et puis les Zélotes, par une manifestation relativement récente, les Zélotes commencent à faire parler d'eux à la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ en l'an 1. D'où viennent toutes ces sectes? D'où viennent-elles? Eh bien, il faut remonter un petit peu en arrière. Vous vous rappelez sans doute le livre des Maccabées dans la Bible, les deux livres des Maccabées qui racontent que en 175, sous Antiochus Épiphane, roi de Syrie, Antiochus Épiphane, successeur d'Alexandre le Grand, et veut unifier son Syrie, Antiochus posant une unique religion, l'adoration de l'idolâtrie grecque. Il rencontre une certaine faiblesse dans une partie de la population de la Judée, mais une partie, les Hassidim, c'est-à-dire les justes, préfèrent quitter leur maison, quitter leur ville, s'enfuir dans le désert, c'est-à-dire en fait dans les lieux inhabités. Et puis comme ils sont pourchassés et poursuivis, ils commencent à se défendre ainsi que leur famille. Ça se transforme, ils ont à la tête un certain Judas Maccabée qui s'avère un remarquable chef de guerre, qui emporte des victoires successives sur les troupes grecques et qui finalement devient restaure la royauté à son profit. Donc on est en 160, de 167 à 160. Judas finit par mourir, lui succède Jonathan Maccabée. Et Jonathan Maccabée, en 160, devenu roi, conseillé par les Sadducéens, Alors les Sadducéens ce sont les familles les plus riches et les plus puissantes qui sont incrustées autour du temple parce que le temple de Jérusalem est un, on peut dire, est un centre commercial. C'est Lourdes multiplié par mille, si vous voulez, au point de vue hôtellerie, vente de bibelots. Enfin là, c'est pas les ventes de bibelots, c'est le change de la monnaie du temple, les animaux, le trafic. On devait apporter les prémices de tout au temple. Donc chaque premier né des animaux, les prémices du blé, les prémices de toutes les récoltes, etc. Bref, vous aviez autour du temple une multitude de petites industries qui tournaient autour de l'activité du temple, car le temple concentrait en lui-même, par la force des choses, drainait une grande partie de l'activité économique. Les Sadducéens ne font pas partie des gens qui se sont révoltés initialement contre les Grecs, mais ils reprennent de l'influence et ils suggèrent, par jalousie contre les pharisiens, à Jonathan de prendre le titre de grand prêtre pour augmenter son ascendant. Les pharisiens s'y opposent. Ils s'opposent à cette... une espèce d'intuition. On voit que la loi de Moïse, en transformant les consciences, donne aux pharisiens cette intuition de ce que sera l'Église. La distinction des pouvoirs. Le pouvoir politique ne doit pas être le pouvoir spirituel. Le pouvoir spirituel ne doit pas être le pouvoir politique. Les pharisiens transformeront cette conscience sous une forme dégradée qui est le lobbying religieux. Mais en pratique, il y a quand même quelque chose de vrai là-dedans. On voit que les consciences, sans rien brusquer, sont toutes prêtes pour l'Évangile. Jonathan devenu grand prêtre, les Hassidim, qui étaient uniquement des pharisiens, une partie des pharisiens, considèrent que le temple est désormais sacrilège, que le culte de Dieu n'est plus le culte de Dieu. Ils quittent Jérusalem, ils font scission et ils vont s'installer. Donc on est en 152 et ils commencent à fonder une communauté, une ville, où se rassemblent les plus saints et les plus pieux d'entre eux. Ils sont répartis dans les autres villes, mais pratiquement les plus saints quittent Jérusalem et vont s'installer sur le site qu'on a retrouvé depuis, donc le site de Qumran. Je vais vous montrer, tâchez de vous trouver un plan. Voilà. On verra ça tout à l'heure. Vous distinguez, vous voyez où est Jérusalem ? Béthanie, le monastère, ce qu'on peut appeler, quoi que ce soit un peu anachronique, mais ce qu'on peut appeler un monastère, car quasiment c'était un monastère, Qumran, une ville, mais constitue uniquement de gens qui faisaient le vœu de Naziréa à vie. Nous en parlerons tout à l'heure. Pratiquement, ce sont des moines chrétiens. C'est-à-dire que le monachisme chrétien existe déjà en Israël au temps de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons maintenant la règle de communauté. Enfin, il y a une centaine de documents décrivant la vie des Esséniens à Qumran. Ils servent d'exemple pour les autres. Tous, certains se marient, on dit, mais il reste que c'est pratiquement une ville de gens qui considèrent que le culte de Jérusalem est blasphématoire et par en conséquence, ils vont attendre le Sauveur toute leur vie. Si vous voulez, ils sont dans une impasse, sauf si le Sauveur arrive. Et c'est la raison pour laquelle l'attente du Sauveur va devenir plus brûlante dans la communauté essénienne, bien plus que dans les autres, parce que pratiquement, si vous voulez, leur rupture est sans issue si le Sauveur n'arrive pas pour établir le culte. Donc il y a l'attente d'un temple nouveau et l'attente d'un Sauveur, l'attente du Sauveur, l'attente du Messie. Ce sont eux en particulier qui vont préserver la prophétie d'Ézéchiel, la prophétie de Zacharie, qui annonce les temps messianiques, parce qu'ils vivent de cela. C'est grâce à eux que dans le canon de la Bible ont été conservés ces prophètes, que les pharisiens, qui avaient une tendance un peu rationaliste, auraient voulu les écarter à cause de leur caractère eschatologique. On remarque que quand saint Pierre fait son discours le jour de la Pentecôte, il cite Ézéchiel parce qu'il s'adresse à des... Enfin, c'est pas... Remarquons la coïncidence. Chez les Esséniens, c'est le livre qu'on lisait le plus, on en a la preuve, parce que les écrits de Qumran sont remplis de réminiscences d'Ézéchiel, reproduites en toutes lettres, ça laisse aucun doute, c'était vraiment les derniers prophètes annonçant le Sauveur étaient lus et relus à Qumran, comme le rouleau d'Isaïe, parlant de la vierge qui doit enfanter, ça faisait partie des livres qui étaient lus et relus à Qumran, de préférence plus encore que la loi de Moïse et les pratiques concrètes de la loi de Moïse. Donc vous voyez, dans cette fidélité à la loi, chez les hassidim, les saints, il y a deux catégories. Il y a ceux qui sont parfaits au point de vue canonique et qui scrutent pour être parfaitement en règle sur la loi de Moïse, ce sont les pharisiens. Et vous avez ceux qui voient plutôt la ligne prophétique et qui attendent la perfection, qui se préparent à la perfection en vue du Sauveur. Le discours de Saint Jean-Baptiste rapporté par Saint Jean se retrouve, il y a des pans entiers, des phrases entières, des expressions entières de Saint Jean-Baptiste qui se retrouvent. Préparer les voies du Seigneur, les purifications, le « je baptise dans l'eau, on vous baptisera dans le Saint-Esprit », ce sont des trucs, des expressions qu'on retrouve dans les manuscrits de Qumran. Bref, voilà dans le sens de Qumran, j'anticipe un petit peu, Betabara où Saint Jean-Baptiste baptisait, on pense qu'on a retrouvé l'endroit où Saint Jean-Baptiste baptisait, quoique évidemment il n'y a pas de reste archéologique, mais les recoupements permettent, les archéologues sont d'accord à peu près unanimement, Betabara était tout près de Qumran. Et en fait, quand il est dit dans l'évangile selon saint Luc que les parents de saint Jean-Baptiste, alors qu'ils étaient tout petits, l'envoyèrent dans le désert, ils n'ont quand même pas laissé son biberon au milieu d'un désert. On sait maintenant que ce qu'on appelait le désert chez les Esséniens répartis, c'était Qumran. C'était la communauté qui vivait hors de la corruption de la ville ou de la corruption de la cité. Et ils appelaient ça le désert. La ville, la communauté de Qumran, la communauté essénienne de Jérusalem, s'appelait elle-même le désert de Jérusalem, quoiqu'il ne soit pas du tout dans le Sahara. Et on s'explique beaucoup mieux dans ce cas-là la mission de Saint Jean-Baptiste et le comportement de ses parents. Ils l'ont envoyé, comme les catholiques envoient leurs enfants internes dans des écoles de la tradition, même loin. C'est exactement ça qu'ont fait les parents de Saint Jean-Baptiste. Pendant que nous sommes en train de parler de Qumran, je vais vous montrer une vue. Il ne faut pas que je la mette à l'envers, sinon... c'est comme ça. C'est une photo scannée, réimprimée, repassée sur votre projecteur. Alors il faut reconnaître que c'est pas bien clair, mais voilà les restes. C'est toute une petite ville, donc une partie, il y a eu un tremblement de terre, une partie s'est effondrée, une partie était emportée. Donc vous avez le fond de la vallée ici, vous voyez tout le ravinement. Les grottes ont été trouvées dans les zones ravinées. Tout ce qui reste de la petite ville de Qumran, ce que vous apercevez là, c'est à peine visible, mais ce sont les bâtiments des archéologues, enfin un peu à l'écart, les installations des archéologues pour leurs recherches. Bon, voilà à peu près à quoi ressemble la zone de Qumran. Donc, je vous parle de l'origine des Esséniens. Attendez, ah non, je me suis trompé, ça c'est la chronologie suivante. Donc les Esséniens ne pratiquent plus le culte à Jérusalem, et on connaît, je vous parlerai de leurs caractéristiques parce que vous verrez qu'on les retrouve, réalisés en particulier chez Jacques le Mineur, et de nombreuses allusions de l'Évangile se comprennent beaucoup mieux quand on connaît toutes les mœurs et toutes les coutumes des Esséniens. Comment est-ce que les Esséniens se retrouvent à Jérusalem dans une communauté compacte et importante? Eh bien, je saute les étapes. Les rois Maccabées deviennent de plus en plus tyranniques. Je vous citerai quelques exemples. Les règlements de compte entre sur le dos des pharisiens ou sur le dos des sadducéens prennent un caractère absolument atroce. Et en même temps, ils se comportent au potentat oriental, et le fait qu'ils aient la grande prêtrise est de plus en plus scandaleux. À partir d'Alexandre Jeannet, qui se sent universellement haï, conseille à sa veuve Alexandra de s'allier aux pharisiens, de changer de politique. Les pharisiens se mettent alors à pourchasser les sadducéens, pour alors le retour de bâton. Et les deux fils d'Alexandra se disputent parce que les sadducéens votent pour l'un et les pharisiens votent pour l'autre. Les deux se retrouvent avec des armées et se battent les uns les autres. Les Romains que les rois Maccabées avaient eu l'imprudence de faire alliance avec les Romains. Les Romains qui se trouvaient justement à proximité arrivent pour départager les deux larrons et une fois que Pompée est installé avec ses armées comme bon allié pour offrir ses bons offices, il désigne Hérode, fils d'un gouverneur, fils d'Antipater, fils d'un gouverneur d'un des deux fils d'Alexandra, et il nomme Hérode roi, à charge pour Hérode, bien entendu, de rassembler des troupes et puis de conquérir son propre trône. Hérode bat les armées les unes derrière les autres. La dernière bataille a lieu sur le lieu de Qumran. La communauté de Qumran est ravagée, mais l'un des prophètes, pour ne pas être trop long, je ne peux pas lire tout mon texte, c'est Flavius Joseph qui raconte cela. Voilà, attendez, Flavius Joseph raconte... un prophète, j'ai oublié son nom, avait annoncé à Hérode qu'il battrait ses ennemis, qu'il régnera à Jérusalem, que son règne durerait 30 ans. Il se trouve que ça s'est vérifié, il a vraiment battu ses ennemis, son règne a réellement duré 30 ans. Et là-dessus, Hérode s'est montré d'une extrême bienveillance envers les Esséniens. Le monastère de Qumran ayant été détruit par toutes les batailles qui avaient lieu sur ce site, Flavius Joseph raconte que lorsqu'Hérode se rend à Jérusalem, il est suivi de plusieurs milliers de juifs qui s'étaient attachés à lui, et il semble que ce soit les Esséniens qui migraient derrière Hérode dans Jérusalem. Hérode, Flavius Joseph, comme Philon d'Alexandrie, insiste sur le fait de la bienveillance constante qu'a manifestée Hérode pour les Esséniens. Ils disent qu'il leur a accordé un quartier entier, qu'il a creusé pour eux une porte spéciale dans les murs de Jérusalem, car n'oubliez pas, les Esséniens étaient extrêmement intransigeants. Ils étaient encore plus stricts que les pharisiens sur l'impureté et la pureté légale, et pour ne pas risquer de se frotter à des païens dans les portes de Jérusalem ou n'importe qui passait, ils avaient réclamé une porte spéciale où seuls passaient des Esséniens pour ne pas contracter une impureté légale. Il y a donc tout un quartier de Jérusalem qui appartenait aux Esséniens qu'on a retrouvé. Vous êtes peut-être surpris qu'on trouve tant de choses 2000 ans après, mais il faut savoir que le temple de Jérusalem était une telle masse au-dessus de Jérusalem. Tenez, voici par exemple une vue du temple de Jérusalem. C'est une reconstitution à l'hôtel Holyland à Jérusalem, au 1/50e, qui est sans cesse mise à jour par les archéologues israéliens au fur et à mesure que sont découverts de nouveaux sites. Le temple était la surface du temple avait été entièrement établie en pierre de taille sur le mont Sion. La surface totale faisait 3 fois la place de la Concorde à Paris, pour que vous ayez une idée de l'immensité du bâtiment. Et lorsque le temple a été ruiné, Jérusalem a été ruiné en 70 par Titus, il y a les décombres du temple, du temple qui a été rasé, s'élevaient à une douzaine de mètres au-dessus du niveau d'origine. En sorte que maintenant, lorsqu'on creuse pour les immeubles, on trouve souvent intactes des fondations de choses qui n'ont pas été touchées depuis notre Seigneur Jésus-Christ. Et alors le père Pixner, un archéologue catholique à Jérusalem, en recherchant la porte des Esséniens dont parlait Flavius Joseph, l'a trouvée dans les anciennes murailles, à l'endroit donné par Flavius Joseph, et en constatant qu'en effet, elle n'est pas d'origine. Les murailles ont été creusées et reconstituées pour établir la porte des Esséniens. Et Hérode accordera toujours sa bienveillance aux Esséniens, car les Esséniens n'ont aucune ambition politique. Ils constatent que les Esséniens n'essaient jamais de se rendre populaires auprès du peuple, ils sont uniquement préoccupés de la perfection rituelle et de la sanctification des membres, mais ils n'essaient pas de quadriller le pays, ni d'exercer une influence politique quelconque. Comme, étant donné leur caractère très paisible, Hérode leur retire jamais sa bienveillance, même dans les plus mauvais moments, et on sait sur leur influence qu'il va reconstruire le temple de Jérusalem, cette énorme bâtisse. Voici une autre vue du temple de Jérusalem. C'est juste à côté, je vous représenterai ça tout à l'heure. Mais voilà, la partie la plus élevée du temple de Jérusalem, il y avait environ 200 mètres de chute. On n'a pas l'impression d'une pareille hauteur parce que les proportions étaient très harmonieuses, mais je crois que la colonnade faisait 15 mètres de hauteur. La colonnade du portique de Salomon faisait 300 mètres de long, 30 mètres de large, et chaque colonne devait au moins faire 15 mètres de hauteur. C'est à la demande des Esséniens qui voulaient un temple nouveau pour l'avenue du Sauveur, et un archéologue israélien étudiant les manuscrits de la Mermotte s'est aperçu que le temple décrit dans les écrits esséniens devait avoir certaines proportions. Et que si on comptait les mesures du temple d'Hérode avec les mesures esséniennes, on trouvait les proportions qui correspondent. C'est-à-dire qu'il établit de façon très vraisemblable que c'est effectivement les Esséniens qui ont demandé à Hérode, qui ont été les maîtres d'œuvre de la reconstruction du temple. C'est-à-dire que l'ancien temple n'a pas été touché au centre, mais tous les bâtiments extérieurs, vous avez la vue générale, cette partie-là est le temple ancien, qui du temps d'Hérode n'a pas été touché, mais toute la plateforme et tous les bâtiments autour sont la construction de l'époque d'Hérode. Et Flavius Joseph précise aussi qu'au moment de la construction d'Hérode, 1000 prêtres en tunique de lin travaillaient de leurs mains à construire le temple. Or, quand on connaît les Sadducéens, il n'y a aucun doute, je vais vous en parler tout à l'heure, il n'y a aucun doute que ce n'était pas des Sadducéens qui ont pris la truelle, mais plusieurs fois Flavius Joseph parle de prêtres en tunique de lin, et il s'agit des Esséniens. Si on sait qu'il y avait une communauté d'à peu près 10 000 Esséniens dans Jérusalem, il n'est pas extraordinaire du tout que les plus pieux soient allés eux-mêmes mettre la main au temple, parce qu'à leurs yeux, si vous voulez, on avançait la venue du Sauveur en construisant le temple avec les proportions symboliques, vous voyez, ce temple pur où le Sauveur devait venir. On trouve le même genre de figure, de mesure du temple par un ange dans le prophète Ézéchiel. Et c'est donc sur là, on peut dire qu'on a une quasi-certitude que c'est sur le conseil, sur l'avis ou l'assistance des Esséniens, également pour se rendre populaire certainement, que Hérode fit reconstruire le temple de Jérusalem. Donc voilà pour les Esséniens, voilà leur origine. Comment ils se sont, ce qui a aggravé leur séparatisme, c'est que Alexandre Janet a tâché de faire assassiner le maître de justice, celui qui est appelé le maître de justice dans le livre du combat des fils de lumière contre les fils de ténèbres. On avait un doute vers les années 50, maintenant il n'y a plus de doute, c'est Alexandre Janet. Il a voulu faire assassiner pour faire disparaître cette communauté de Qumran qui ne reconnaissait pas son autorité. Vous voyez, il avait usurpé l'autorité religieuse pour pensant consolider encore son pouvoir. Si vous voulez, c'est la laïcité, le pouvoir laïque qui prétend contrôler les consciences. Et il ne veut pas de pouvoir rival qui dise ceci est bien, ceci est mal. C'est exactement ça, que c'est à la forme religieuse, ça revient exactement au même que le talaïque, la concentration du pouvoir sur les consciences et du pouvoir sur la police entre les mêmes mains. Étant donné que, en gros, ces gens-là ne l'acceptaient pas, il a tendu un piège, une entrevue, sous prétexte d'arriver à un accord, en particulier en ce qui concernait le calendrier, car les Esséniens ne suivaient pas le même calendrier que celui qu'on suivait au temple. Il a réussi à faire assassiner celui qui est appelé le maître de justice dans le livre des combats de la lumière et des ténèbres, ce qui a encore aggravé le séparatisme et la sévérité des Esséniens. Donc à l'époque d'Hérode, étant donné la surface du quartier essénien, je vais vous donner une vue verticale. Une prise de vue de très haut de la maquette de l'hôtel Holyland. Le quartier essénien, c'est tout ça. Malheureusement, quand j'ai scanné ma photo, la porte des Esséniens n'est pas visible. Elle a été redécouverte en 77, elle a été ajoutée. Comme on a retrouvé le palais du grand prêtre Anne vers 1980, donc il était reconstitué, ajouté. On a retrouvé la synagogue des affranchis, ça doit vous rappeler quelque chose. Dans les actes des apôtres, l'émeute contre saint Paul, téléguidée par les grands prêtres, démarre la synagogue des affranchis. Et vous noterez que la synagogue des Alexandrins ou des affranchis est là, elle a été retrouvée. Et elle est donc dans la maquette, et elle est juste en bordure du quartier essénien. Tout ce quartier-là de Jérusalem, vous voyez comment une proportion importante de Jérusalem est le quartier essénien. L'estimation de 10 000 peut être faite à partir des nécropoles chrétiennes trouvées à Jérusalem. Attendez. Est-ce que je peux vous dire des noms exacts, des noms d'archéologues? Bon, tant pis, je peux pas. Non, puis je ne peux pas être trop long, mais il a été retrouvé plus des nécropoles chrétiennes, plusieurs centaines de tombes sur lesquelles il y a des croix ou des inscriptions du nom de Jésus. Par exemple, je peux vous montrer, j'espère que je peux vous montrer d'ailleurs, une de ces tombes, la seule photo dont je dispose, et sur le ossuaire du 1er siècle, au musée des Antiquités d'Israël, où se trouve qui est là, Jésus. Jésus, fils de Joseph, alors c'est pas notre Seigneur Jésus-Christ, mais apparemment chez les premiers chrétiens, ils prenaient volontiers les noms de Joseph, de Marie ou de Jésus par dévotion. Et vous notez qu'il y a une croix dans l'inscription, quoi. Et indubitablement, c'est une inscription chrétienne. C'est très intéressant parce qu'on pensait pendant très longtemps que le signe de la croix n'avait jamais été utilisé par les chrétiens et seulement à partir de Constantin, et parce qu'on ne le trouvait pas en effet dans les catacombes romaines. Eh bien, les découvertes des sanctuaires chrétiens ou des nécropoles chrétiennes à Jérusalem montrent que du temps des apôtres, les juifs n'avaient pas la même répugnance pour le signe de la croix et ils utilisaient comme signe de reconnaissance le signe de la croix. On en a retrouvé aussi dans les fondations du Cénacle. Le Cénacle est en plein milieu du quartier essénien. Vous voyez que vraiment tous les indices convergent dans la même direction. Il y a dans ces fondations, et les fondations sont de l'époque hérodienne, dans ces fondations, on a retrouvé une niche qui correspondrait à un tabernacle. Il n'est pas orienté vers le temple comme dans la plupart des synagogues, il est orienté vers le Golgotha. Très intéressant, vous voyez, c'est tout à fait significatif. Et sur les murs, on a retrouvé, malgré les siècles, une inscription gravée et qui n'a pas été ajoutée, enfin qui est bien d'époque sur l'enduit de l'époque hérodienne, Jésus sauveur et pitié. On a des expressions manifestement chrétiennes. Alors voilà pour les Esséniens, 10 000 environ. Vous voyez, on a la surface, le nom, les nécropoles, la surface de leur quartier, et puis ce que dit Saint Jacques le Mineur à Saint-Paul dans les Actes des Apôtres, je vous le reprendrai tout à l'heure, mais il dit, vous savez qu'il y a ici, ils sont plusieurs milliers, tous fidèles, tous fervents observateurs de la loi de Moïse et bons chrétiens, et donc, enfin bon, j'en reviendrai tout à l'heure sur sa description, mais il dit plusieurs milliers. En fait, il parle de sa communauté, et on peut estimer 10 000 personnes. D'après aussi la population de Jérusalem, on peut estimer à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ, d'après Flavius Joseph, d'après les fouilles archéologiques, que la Judée plus la Galilée contenait entre 2 500 000 et 3 millions d'habitants. La plupart se trouvant en Galilée, mais Jérusalem à elle seule faisant environ 500 000 habitants. Ce sont des chiffres, j'ai trouvé ça dans Madame Genoux Bismuth, qui a fait une remarquable étude sur la Judée à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous les indices convergent, tous les documents dont on dispose convergent. Pour Jérusalem, environ 500 000 habitants. Et étant donné la surface du quartier essénien, c'est une bonne estimation. À peu près 10 000 personnes qui ont été pendant 35 ans pratiquement un témoin constant de la communauté chrétienne au milieu de Jérusalem. Alors voilà pour les Esséniens. Les pharisiens, leur origine, nous en avons... Attendez, qu'est-ce que je... Je me suis encore trompé de... Nous en avons parlé tout à l'heure. Initialement, ce sont... Donc, pharisiens viennent de Perushim séparés, c'est-à-dire ceux qui se mettent à part pour pratiquer la justice. Après la séparation, ils deviennent distincts après la séparation des Esséniens. À l'origine, ce sont ceux qui préfèrent quitter leur maison et tout quitter plutôt que d'offrir de l'encens aux idoles, à l'époque de la persécution d'Antiochus Épiphane. Ils deviennent un poids lourd politique sous les rois asmonéens, et au moment où Jonathan se déclare grand prêtre, Jonathan est ennuyeux, disons, Jonathan se déclare grand prêtre, entre autres pour avoir de l'ascendance sur les pharisiens. Alors, je vais vous lire un passage où on raconte comment ça s'est passé. Sur la fin de son règne, un sadducéen parvint à convaincre Alexandre Jannée que les pharisiens... Ah non, c'est pas ça, attendez. Comme c'est amusant, je vais quand même vous le lire. Je ne vais pas le retrouver. Bon. Et Sadducéen parvint à convaincre Alexandre Jannée qu'il fallait qu'il devienne grand prêtre pour assurer son pouvoir, en particulier sur les pharisiens, qui étaient un contre-pouvoir sur lui. Alexandre Jannée devient grand prêtre, les pharisiens s'y opposent, lors d'un repas, un pharisien lui dit qu'il te suffise d'avoir la royauté et laisse la grande prêtrise à la descendance d'Aaron. Un sadducéen lui dit que ça montre un état de révolte et Jonathan lui demande que dois-je faire et lui dit grand roi, si tu m'écoutes, écrase-les. Alors, ça... Ah ben oui. Il y avait là, voilà la citation, il y avait là un mauvais esprit, homme au cœur mauvais et pervers, Éléazar ben Poïra. Et c'était Éléazar ben Poïra, dit au roi Jannée, « Au roi Jannée, le cœur des pharisiens est en ressentiment contre toi. Que dois-je donc faire? Dresse-toi au-dessus d'eux par le frontal entre tes yeux. » Ça veut dire le grand prêtrise. Il se proclamera au-dessus d'eux par le frontal entre ses yeux. Or, il se trouva là un Zaken, c'est un maître, Yehuda ben Gedidiya. Et ce Yehuda ben Gedidiya dit au roi Yannée, qu'il se suffise de la couronne de la royauté, laisse donc celle de la prêtrise à la descendance d'Aaron. Et Lazar ben Poïra dit au roi Yannée, pour une simple quidam d'entre Israël, quelle serait la sentence pour une calomnie? Pour toi qui es roi et grand prêtre, quelle doit être ta sentence? Point d'exclamation. Que dois-je donc faire? Si tu te remets à mon conseil, écrase-les. Alors, je vous lis quelques passages. Les descendants des Maccabéens furent combattus par les pharisiens qui soutenaient autrefois leurs ancêtres. Les pharisiens firent même appel contre leur prince à l'aide du roi Démétrius III de Syrie. Démétrius vainquit Alexandre, mais celui-ci nettoya à son retour Jérusalem d'une manière plus que féroce. Il fit crucifier 800 pharisiens, tandis qu'on égorgeait sous leurs yeux leurs femmes et leurs enfants. En 6 ans, il tua environ 50 000 révoltés. Voilà, ça vous donne une idée. C'est intéressant pour comprendre l'histoire récente à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour comprendre comment les gens réagissent, il faut savoir ce qui s'est passé dans les générations précédentes. Après Alexandra, retournement complet, Alexandra s'appuie sur les pharisiens et les pharisiens se mettent à régler leur compte aux sadducéens. Et les sadducéens sont tellement traqués qu'ils demandent des villes de refuge où ils puissent au moins se réfugier parce que les pharisiens improvisaient des tribunaux populaires partout et puis les pourchassaient de la même manière. Donc voilà l'origine des pharisiens. Les pharisiens vont asseoir leur ascendant, non pas en essayant comme les sadducéens de s'enrichir, mais en quadrillant le pays. Ce sont les pharisiens qui installent dans tout Israël les écoles rabbiniques dans chaque synagogue, dans chaque village, qui vont construire chaque synagogue, qui font des écoles de docteurs de la loi, qui installent un docteur de la loi dans chaque village et qui normalement installent une confrérie de pharisiens dans chaque village. Pour rentrer dans une confrérie de pharisiens, il fallait avoir 5 ans de noviciat, s'entraîner à suivre la halakha et ensuite pratiquer toutes les règles prescrites par les pharisiens. Ça leur donnait un immense ascendant parce que leur vie était austère, relativement désintéressée et ils étaient pratiquement des guides religieux. Les sadducéens eux-mêmes s'y prêtent parce qu'ils étaient complètement ignorants. C'est eux qui tenaient la grande prêtrise, qui tenaient le Sanhédrin, mais ils étaient complètement ignorants, et on peut dire qu'ils étaient cornaqués par les pharisiens. Alors voilà un exemple de la manière dont les pharisiens traitaient les sadducéens, montrer comment ils se traitaient les uns les autres, combien prend mieux l'évangile dans ces conditions. Alors, des anciens membres du Sanhédrin lui transmettaient constamment, alors c'était des pharisiens, lui transmettait quotidiennement l'ordre du jour et lui disait « Ish Kohen Gadol », ça veut dire « Monseigneur le grand prêtre ». Bon, enfin, je pense que vous voyez, « Ish » c'est monsieur, « Kohen » c'est prêtre et « Gadol » c'est grand. « Lis par toi-même à haute voix, de crainte que tu n'aies oublié les dispositions de la Torah ou que tu ne les aies pas étudiées. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a un autre endroit, j'ai plus en tête, mais un jour, le grand prêtre sort du temple et le peuple l'acclame. Passe Ismaïn ben Shimaï, enfin bon, un docteur pharisien. Aussitôt, le peuple pharisien quitte le grand prêtre et le peuple se met à suivre le docteur pharisien. Et le grand prêtre le salue ironiquement en disant que la plèbe aille avec le docteur de la loi. Et le docteur de la loi dise que le favori de la paix de la plèbe aille en paix. Et le pharisien lui répond que la plèbe aille en paix, elle qui observe la loi d'Aaron, et que le grand prêtre n'aille pas en paix, lui qui n'observe pas la tradition d'Aaron. Enfin, vous voyez à peu près avec quel mépris il est tenu en laisse. Alors je ne peux même pas vous dire, les jeunes pharisiens qui surveillaient le culte claquaient des doigts sous le nez du grand prêtre quand il s'endormait lors des cérémonies interminables en disant « Ish Kohen Gadol, fais attention de bien lire et ne rate pas les... n'aie pas une prononciation fautive. » Bref, vous voyez, le poids des pharisiens, c'est ils sont appuyés sur leur prestige au milieu de la population, une très grande une présence dans tous les milieux populaires jusque dans les campagnes, et ils sont favorisés aussi par la corruption des Sadducéens. Maintenant, je vais vous parler un peu des Sadducéens. Il est déjà tard, mais vous comprendrez mieux les débuts de l'Église chrétienne si vous voyez un peu quelle était l'atmosphère. Alors, les Sadducéens, l'origine des Sadducéens. Lorsque Jonathan prit possession de la charge de grand prêtre, donc c'est vers 152, les vieilles familles sacerdotales dont étaient issus les précédents grands prêtres s'allièrent plus étroitement. Elles étaient très riches parce que toutes les familles qui avaient la grande prêtrise dans leur famille contrôlaient tout le commerce qui tournait autour du temple. Je vous en ai parlé précédemment. Je n'ai pas le temps de vous faire un exposé là-dessus. C'est très, très intéressant. Toutes les fabriques qui tournent autour du temple, les monopoles. Il y avait une famille dont la fortune reposait sur le monopole de l'encens du temple. Il y avait une formule. Et c'est pratiquement, c'était pas dans la loi de Moïse, mais il y avait l'encens ne pouvait servir au culte que s'il avait une formule. Elle était le secret de la famille qui se gardait bien de lâcher le secret parce que sa fortune était entièrement constituée sur. D'autres faisaient leur fortune sur le commerce des peaux, car lorsqu'on dégorgeait l'agneau pascal, la peau appartenait au grand prêtre. Et donc il y avait, je crois qu'il y avait 200 000 peaux chaque année. Et donc, toute une industrie de tannerie, enfin, ça vous donne une petite idée de ce qui tournait autour du sacerdoce. Alors, ils se forment une alliance beaucoup plus grande, de gens très riches, pas populaires du tout, absolument pas pieux, que le temple n'intéresse qu'en fait pour asseoir leur pouvoir, et qui, à un moment donné, arrive à faire liquider les pharisiens, retour de bâton, ça leur retombe dessus, mais lorsque Hérode prend le pouvoir, Hérode se méfie des pharisiens, et il se méfie beaucoup moins des sadducéens, parce que les sadducéens, comme tous les gens riches, sont manipulables. Donc Hérode se contente de nommer le grand prêtre, il ne peut pas être grand prêtre lui-même, parce que vous savez qu'Hérode était un Iduméen, ça n'était pas un juif. Et il se savait haï d'ailleurs, il a toujours peur qu'on essaie de l'assassiner. Il remet à nommer les grands prêtres parmi les sadducéens. Les grands prêtres vont donc tous se trouver dans les familles de sadducéens. Je vais vous donner une idée de la mentalité des sadducéens. Voilà, ils constituaient, dit Madame Genot Bismuth, une mafia de luxe qui parvint à monopoliser à son profit l'énorme circuit économique du temple. Alors voilà une anecdote. Abba et Ahul rapportent, il y avait à Jéricho des plantations de sycomores. Il se trouvait des hommes de violence qui venaient faire main basse par force. C'était en fait des hommes de violence, c'était des serviteurs des sadducéens. Alors les propriétaires vouèrent les fruits à Dieu. Vous voyez, c'est le corban. Voué à Dieu, donc personne ne peut y toucher sous peine de faire un sacrilège. Ça doit aller au temple. Les prêtres répondirent, les propriétaires des sycomores n'ont voué à Dieu que les troncs. Sur eux, leurs acolytes et consorts, qui se comportent comme eux, Abba Saül ben Botnit et Abba Yossé ben Yofianan de Jérusalem, envoyèrent leurs serviteurs pour s'emparer des fruits. Et là-dessus, celui qui écrit cette petite chronique dit « Alors on se mit à chanter parmi les victimes le poème suivant « Que j'ai peur de la maison de Boethos, que j'ai peur de leur bastonnade, que j'ai peur de la maison de Hanin, poème suivant » et les grands prêtres Han, hein, c'est la même famille, la famille du grand prêtre Han. « Comme j'ai peur de leur délation, comme j'ai peur de la maison de Catros, comme j'ai peur de leur saguet, comme j'ai peur de la maison d'Ismaël, fils de Phiabi, comme j'ai peur de leurs coups de poing, ne sont-ils pas grands prêtres et leurs fils trésoriers et leurs gendres surintendants et leurs esclaves ne bâtonnent-ils pas le peuple et leurs gourdes ?» Le peuple de leurs gourdes. Alors, je vous épargne le reste, mais ça vous donne... Ils étaient très... D'une part, ils écrasaient d'impôts, ils étaient très riches, une mafia de luxe, immensément riches, qui ont des milices privées pratiquement à leur service, qui sont unanimement détestés. Les pharisiens sont d'autant plus populaires que les sadducéens sont détestés. J'insiste là-dessus parce que vous allez comprendre pourquoi les sadducéens n'arriveront pas. C'est eux qui auront une haine que rien n'arrivera à affaiblir contre l'église chrétienne de Jérusalem, mais tant qu'ils vont se trouver tout seuls, ils n'arriveront à rien faire. Et à partir du moment où l'alliance avec les pharisiens leur claque dans les lois, ils n'arrivent à rien faire. Il n'arrive à rien. Hérode, relativement populaire dans le petit peuple. Une année de famine, il avait fait vendre toute sa vaisselle d'or et d'argent et fait venir des navires de blé pour que le peuple ait à manger. Il avait fait distribuer des vêtements à tous ceux qui n'avaient rien. Et il était populaire aussi à cause du temple. Détesté des pharisiens parce qu'il n'est pas juif et qu'il se prétend roi des juifs. Détesté, disons, supporté par les sadducéens. Ceux qu'on appelle les Hérodiens dans l'Évangile sont très certainement les Esséniens, qui étaient bien vus d'Hérode, pour deux raisons. D'une part, bon, vous savez que les pharisiens viennent tendre un piège dans les derniers jours avant la Passion avec des Hérodiens, mais on ne savait pas bien qui c'était. Mais à un moment donné, notre Seigneur dit « Méfiez-vous du levain d'Hérode et des pharisiens ». Quand il s'agit du levain des pharisiens, il s'agit de doctrine. Si les Hérodiens étaient des simples parvenus, préoccupés, des simples politiciens parvenus, on ne voit pas pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ mettrait en garde contre une doctrine parallèle aux pharisiens. Par contre, si ce sont les Esséniens trop rigides sur le sabbat, par exemple, on comprend très bien que notre Seigneur mette en garde de la même manière contre les uns et contre les autres. Donc, Hérode, relativement populaire, malgré tous ses crimes, dans les milieux pauvres, les Romains là-dedans. Autant notre Seigneur Jésus-Christ, ça va encore parce que il respecte à peu près les particularismes d'Israël. Par exemple, autant que possible, les monnaies de l'empereur qui circulent en Israël n'ont pas de portrait de l'empereur. En fait, on a trouvé plein avec des portraits, mais normalement, il n'y a pas de portrait sur les monnaies. Vous savez qu'on ne devait pas faire de figures taillées. Les légions ne doivent pas entrer à Jérusalem avec leurs enseignes. Leurs enseignes étant en fait toujours plus ou moins idolatriques, c'était toujours une idole qui protégeait la légion, ils ne devaient pas faire entrer leurs enseignes en théorie, il faut être un peu sérieux, mais enfin, il ne faut pas trop rêver. Mais en principe, ils ne devaient pas faire entrer leurs enseignes dans Jérusalem, et l'empereur Auguste faisait les frais chaque jour d'une partie des sacrifices du temple. Cependant, dans la période que nous allons étudier, donc jusqu'en 70, les gouverneurs romains deviennent de pire en pire, de plus en plus rapaces, et surtout à la fin, ils entretiennent délibérément l'anarchie pour pousser les juifs à la révolte, afin de pouvoir s'en emparer et tout piller sans rien avoir à craindre. Finalement, la révolte des Zélotes est organisée délibérément par le dernier gouverneur romain, qui ne les emprisonne pas, qui les arme, qui les favorise, qui refuse d'intervenir quand la révolte éclate, même quand on tue des Romains, avec l'intention de revenir avec une armée et de s'emparer, de piller tout comme un pays à conquérir. En fait, ce sont les gouverneurs romains qui provoqueront la révolte juive de 70. Il est certain que les Zélotes n'avaient pas besoin d'être encouragés, mais les Romains feront tout pour que la population bascule du côté des Zélotes. Voilà l'atmosphère dans laquelle se développe l'église chrétienne de Jérusalem. Maintenant, je vais arriver au cœur de mon sujet. L'église chrétienne de Jérusalem. L'église chrétienne de Jérusalem jusqu'en 70. Vous avez les événements politiques. la restauration du temple en vain à Jésus-Christ. Vous reconnaissez Yoézer ben Boéthos, grand prêtre, c'est celui qui était cloué au pilori par la petite poésie dont je vous ai parlé tout à l'heure, nommé par Hérode avant sa mort. Insurrection le premier zélote, surgissement des zélotes, Yehuda le Galiléen qui s'empare de Séphoris. Séphoris n'est pas très loin de Cana en Galilée. Vous savez que, enfin je ne sais pas si vous savez, Séphoris est reprise par Varus, le gouverneur romain, et il fait crucifier 2000 personnes. Tous ceux qui avaient été pris les armes à la main dans la prise de Séphoris ont été crucifiés. Donc, je vous mets les chiffres ordinaires, mais je ne suis pas sûr du tout que notre Seigneur soit né en moins 7, moins 5. Je pense qu'il est bien né à la date, l'an 1, tel que la chronologie classique le donne. Mais bon, pour ma chronologie, j'ai pris les chiffres que prennent les historiens ordinairement. Donc, Hanan ben Seth, déposition de Hanan ben Seth, bon, vous avez là Joseph Caïapha, donc c'est Joseph Caïf. Au passage, on a retrouvé la maison de Caïphe dans le quartier à Jérusalem, dans le quartier sacerdotal, et pas très loin de la maison du palais du grand prêtre Anne. Quirinus Sulpicius, c'est celui du premier recensement. Il a été gouverneur un peu auparavant et s'est retrouvé une deuxième fois gouverneur, et c'est celui du recensement. Mais le recensement a été démarré avant la naissance de notre Seigneur. Alors, nous arrivons à la Pentecôte 33. Ah tiens, à propos des pharisiens, j'ai oublié, j'y pense en lisant Crillon de la halakha pharisienne en rituel du temple. Les pharisiens eux-mêmes ne sont pas unis. C'est une chose qu'il faut comprendre à propos de saint Paul. Une fois le triomphe des pharisiens acquis, ils se divisent en coteries rivales qui ne s'aiment pas les uns les autres. Alors, je vais vous lire aussi le texte. Donc c'est quelque chose qui se passe vers l'an 30. Il devait y avoir une réunion au Sanhédrin pour voter une disposition de la Halakha, c'est-à-dire une interprétation de la loi de Moïse qui deviendra obligatoire une fois votée. Et donc vous aviez une majorité de pharisiens, mais de partis opposés. Alors, quand ils montèrent tenir conseil chez lui, ils comptèrent leurs voix et l'école de Samaï l'emporta en majorité sur celle d'Hillel. Hillel et Samaï étaient deux docteurs de la loi rivaux chez les pharisiens. Ce jour-là fut aussi sombre pour Israël que celui où fut commis le veau d'or. Tradition. Alors c'est un extrait des Talmuds donné par Madame Genot Bismuth. Tradition remontant à Rabbi Yehoshua Unia. Les partisans de Samaï restés en bas assassinèrent ceux d'Hillel. 6 des partisans d'Hillel réussirent à monter en séance, mais les autres en bas furent attaqués à coups d'épée et de lance. 18 propositions halakhiques furent votées dans ces conditions, et sur 18, ils assurèrent la majorité. Mais ces mesures furent aussitôt contestées. Alors, c'est à rapprocher, par exemple, de l'attitude de Gamaliel au Sanhédrin à propos des apôtres, tout à fait opposée à l'attitude de saint Paul à propos des apôtres. Pourtant, l'un et l'autre étaient pharisiens. Les pharisiens, quoique triomphants, sont divisés entre eux, mais malgré tout, ils arrivent en 20-30 à imposer le calendrier pharisien au temple et le rituel pharisien pour tous les sacrifices et pour l'ensemble du culte. Alors, Pentecôte 33, Pierre évêque de Jérusalem et le début de la différenciation du sacerdoce, institution des diacres pour toutes les œuvres caritatives, les apôtres se conservant, la prédication, le pardon des péchés, le culte et la messe. Donc à l'époque, la première division se fait entre évêques et diacres et pas directement entre évêques et prêtres. La nécessité des prêtres se manifestera plus tard. 36. L'habitation du diacre chrétienne en l'absence de Pilate. C'est le début d'une courte persécution, mais qui est extrêmement violente et qui laissera un traumatisme durable dans toute la communauté de Jérusalem. Fuite. Donc vous avez ici en bleu les préfets de Judée, les préfets romains. Suite à cette persécution, Saint Paul, pendant cette persécution, Saint Paul dit l'Évangile, allait dans les maisons, sortait les hommes, les femmes, les enchaînait et les menait en prison. C'est-à-dire que ce n'est pas une simple persécution où de la police vient prendre un ou l'autre chrétien, un sur 10 qui suffit pour terroriser, il s'agit d'une extermination. Il n'y a pas une maison qui échappe. Il y a des perquisitions dans chaque maison et les gens mis enchaînés et puis emmenés. Pratiquement, la communauté essénienne, c'est le quartier essénien, est réduit à fuir. Et où est-ce qu'il fuit? Il fuit en Galilée, parce que Flavius Joseph nous dit qu'en Galilée, il y avait un très grand nombre d'Esséniens. On constate dans les Actes des Apôtres à ce propos-là qu'ils considèrent comme frères même des gens qui n'ont pas été baptisés en Galilée. Ils se retrouvent en milieu d'autres frères, donc visiblement, ils se sentent membres de la même communauté. Et ils leur demandent « Avez-vous été baptisés ?» Il répond, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Vous savez, ils répondent, mais non, nous ignorions même qu'il y a un Saint-Esprit. Alors, ils leur ont demandé, comment avez-vous été baptisés? Nous avons reçu le baptême de Jean. Donc, vous voyez, des gens qui n'avaient pas reçu le baptême chrétien étaient quand même considérés comme des frères, ce qui montre en fait que les uns comme les autres ont quelque chose.
De temps en temps, mais tout le temps. Il veut vraiment diriger toute votre vie. Pour cela, il fait comme l'huile. L'huile, lorsqu'on la met sur la peau, pénètre. Mais elle pénètre tout doucement, sans violence, de telle sorte qu'on ne le remarque pas. Eh bien, si le Saint-Esprit rentre dans votre âme, mais vous ne le remarquerez pas. Ça dépasse notre compréhension, notre intelligence, nos sens, bien sûr. Pourtant, c'est vrai. Il veut vraiment venir. Vous ne remarquerez pas. Ça dépasse notre compréhension, notre intelligence, nos sens, bien sûr. Pourtant, c'est vrai. Il veut vraiment venir. L'huile, non seulement pénètre, mais donne de la force. L'huile guérit aussi. Le Saint-Esprit qui vit en vous veut vous donner la force de Dieu. Encore bien plus, avec de l'huile, on peut faire du feu. Autrefois,
Mais non, nous ignorions même qu'il y a un Saint-Esprit. Alors, ils leur ont demandé, comment avez-vous été baptisés? Mais nous avons reçu le baptême de Jean. Donc, vous voyez, des gens qui n'avaient pas reçu le baptême chrétien étaient quand même considérés comme des frères, ce qui montre en fait que les uns comme les autres ont quelque chose de commun qui est antérieur au baptême chrétien, c'est l'appartenance essénienne. Et cette persécution a pour effet d'entraîner une évangélisation de la Galilée et de la Samarie. Et d'après les Actes des Apôtres, toute la Galilée et toute la Samarie a reçu le Christ. Et on a longtemps pensé que c'était une exagération. Vous allez voir les documents que je vous donnerai tout à l'heure. Il semble que ce n'est pas une exagération. Il semble que dans presque toutes les synagogues de Galilée et de la Samarie, on trouvait les rouleaux des évangiles. Il y avait une majorité d'Asséniens ou de disciples de Saint-Jean-Baptiste, ça semble être les mêmes dans l'Évangile, et ils avaient vraiment reçu le Christ. Donc, en 40, la persécution dure. Dans la locution de l'évangélisation de la Samarie, on voit que Saint-Pierre, qui a exactement la mentalité essénienne, a du mal à avoir l'idée qu'il faudrait baptiser même les païens, les non-juifs. Il ne vient pas à l'idée, quand on dit les païens, si vous voulez, ou les gentils, c'est les goyim, c'est les non-juifs. Il ne vient pas à l'idée que ça les concerne. Et il a fallu qu'il ait sa vision sur le toit du centurion Corneille, où il lui dit explicitement, tu renonces aux interdits, aux pratiques, aux restrictions esséniennes, et deux, tu baptises même les païens. Là-dessus, le centurion Corneille arrive chez Simon Corroyeur, où logeait Saint-Pierre, et Saint-Pierre reçoit ça, quelque chose qui n'allait pas de soi du tout. Pour nous qui avons lu l'Évangile, ça nous paraît tout curieux, mais aux yeux de Saint-Pierre, ça n'allait pas de soi du tout. Et dit, frère, je comprends maintenant que Dieu ne fait pas exception de personne, il faut les baptiser aussi. mais ça n'allait pas du tout de soi. Et on voit que Pierre avait cette mentalité très exclusiviste, propre, très caractéristique des Esséniens. En 40, conversion de saint Paul. Et avec la conversion de saint Paul, la persécution très violente cesse. Là-dessus, le parti, les pharisiens, qui étaient manifestement divisés en deux parties, le parti de saint Paul et le parti de Gamaliel, c'est le parti de Gamaliel qui l'emporte. Vous savez, Gamaliel, initialement, avait donné au Sanhédrin le conseil « Si ce que font ne vient pas de Dieu, ça va se détruire tout seul. Si ce qui vient de Dieu, vous luttez contre Dieu lui-même. » Et finalement, on les avait laissés prêcher. Donc le parti de Gamaliel l'emporte et les pharisiens ne se mêlent plus de persécution contre les chrétiens. C'est-à-dire que les sadducéens perdent leur courroie de transmission pharisienne et perdent une espèce d'alibi populaire, de soutien populaire dans leur hostilité vis-à-vis des chrétiens. Conversion de saint Paul. En 41, c'est sous Agrippa. Le roi Agrippa. Le roi Agrippa est une potiche installée par les Romains qui n'a même pas de pouvoir royal. Mais les Sadducéens profitent de la faiblesse d'Agrippa pour obtenir d'Agrippa de démarrer une persécution. Les actes des apôtres montrent la forme de cette persécution. Ça n'est pas quelque chose d'aussi terrifiant qu'à l'époque de saint Paul. Il fait arrêter quelques membres au hasard, pris au hasard, qui lui paraissent importants, sur qui il arrive à mettre la main. Quelques membres de l'église, dont saint Pierre, dont saint Jacques, il les fait emprisonner, ayant l'intention de leur faire couper la tête. Vous savez que toute la communauté prie pour saint Pierre, on voit que manifestement saint Pierre est bien l'évêque de Jérusalem. Saint Pierre s'évade, quitte Jérusalem, confie le pontificat, c'est-à-dire que l'évêque de Jérusalem devient saint Jacques le Majeur, le frère de saint Jean, et saint Jacques le Majeur est mis à mort en 41. Il n'a pas confié à saint Jacques le Majeur, pardon. Il est mis à mort en même temps que saint Pierre. Et à la suite de saint Pierre, c'est saint Jacques le Mineur. Saint Jacques le Mineur est le fils d'Alphée et de... Attendez, fils d'Alphée et de... peu importe, j'ai oublié. Mais c'est de la famille... Alphée est le frère de saint Pierre. Il est donc de famille de sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a un lien de famille. C'est pour ça qu'on l'appelait le frère du Seigneur. Saint Jacques le Mineur, nommé par les apôtres évêque de Jérusalem, va donc être évêque de Jérusalem pendant une longue période qui est quasiment une période de paix, jusqu'en 69, date à laquelle il est assassiné, et c'est un crime crapuleux. On voit que les Sadducéens, le coup de tête d'Agrippa ne dure pas. Agrippa ne pourchasse pas la communauté chrétienne et les Sadducéens ne peuvent pratiquement rien faire. L'assassinat de saint Jacques le Majeur, de saint Jacques le Mineur, a eu lieu pendant l'absence du gouverneur romain où le grand prêtre de l'époque, qui était grand prêtre depuis 3 mois, ce Flavius Joseph dit qu'il était un caractère très violent et très audacieux. Il a saisi l'occasion, monté un piège et il a dû monter un guet-apens. Il a fait venir saint Jacques le Majeur au Sanhédrin pour qu'il leur dise quelle était la vraie voie et est-ce que Jésus était bien le Sauveur. Alors saint Jacques le Majeur n'a pas refusé, il s'est rendu au Sanhédrin. Et puis à ce moment-là, une fois qu'il a témoigné, le grand prêtre a crié « Le juste lui-même s'est donc laissé abuser ». Et puis il y a eu une bousculade sur le pinacle du temple. Mais vous voyez, personne ne l'a poussé, on ne sait pas. Il y a eu une bousculade et puis il est tombé. Voilà, puis il a reçu des pierres anonymes tombent du haut du pinacle du temple, et puis on a achevé saint Jacques le Mineur avec une barre de foulon. Mais je vous en parlerai tout à l'heure, c'est pas la peine que j'anticipe trop. Donc 62, saint Jacques le Mineur assassiné. En 62, même année, mort de la très sainte Vierge Marie. Avec tentative de violation de sa sépulture. En 67, les chrétiens, les premières troupes romaines commencent à investir Jérusalem. Les chrétiens fuient Jérusalem, se réfugient à Pella. Le 73-107, le successeur de saint Jacques le Mineur est le Simon, fils de Cléophas, frère de Joseph. Donc c'est des personnages qu'on connaît dans l'Évangile. Siméon est mort martyr en 107, et ensuite on voit que la, la communauté judéo-chrétienne subit une persécution extrêmement violente. On n'a pas les dates, mais je vous donne la liste. La série des évêques, aucun ne dure plus de 2 ans. Et vers 136, se marque premier évêque grec de Jérusalem. Alors la communauté chrétienne de Jérusalem finit prise dans un étau entre une véritable persécution. Les pharisiens désormais ont pris pratiquement le monopole du contrôle de la diaspora et ils entreprennent d'éliminer définitivement les chrétiens. Ils sont pris dans un étau d'un côté et de l'autre côté, les Grecs les voient avec suspicion. En sorte que la place, si vous voulez, l'espace respirable diminue pour eux au fur et à mesure. Et cette persécution est d'autant plus violente qu'on est dans un état de quasi-insurrection, et à chaque insurrection contre les Romains, les premiers à être massacrés, c'est les chrétiens dans les villes juives. Les dernières traces qu'on trouve de l'église judéo-chrétienne datent de l'an 200 après Jésus-Christ. Ensuite, on n'a plus de traces. Ça ne veut pas dire qu'ils ont entièrement disparu, mais enfin, ensuite, on n'a plus de traces. Alors, je vais vous donner un petit peu plus de détails sur ce qu'était cette communauté judéo-chrétienne. Voilà, Pentecôte 33, que nous racontent les Actes des Apôtres, le discours de Saint-Pierre, premier jour 3000 baptisés, deuxième jour 4000 baptisés, au moins 4000 demandant le baptême, mais je ne suis pas convaincu que les 4000 aient pu être baptisés le jour même. Attention, ce n'est pas absolument impossible. Dans le quartier essénien, on a retrouvé, comment est-ce que ça s'appelle déjà, des vasques pour les purifications des Esséniens qui étaient encore plus exigeants sur les purifications que les pharisiens. J'ai oublié le nom de ces vasques spéciales. Et les plus anciens baptistères qu'on trouve dans les basiliques chrétiennes ont la forme de ces vasques de purification des Esséniens. C'est-à-dire qu'en fait, le baptême se faisait dans ces bains rituels pour les purifications avant toutes les prières, avant tous les sacrifices. Comme il y en avait une dans chaque maison, des baptêmes en série ont pu être faits et pu permettre de baptiser des gens, un très très grand nombre de gens en très peu de temps. Mais en tout cas, les chiffres 3000 puis 4000 le lendemain, qui ont été mis en doute, maintenant ne peuvent plus être mis en doute. Le Cénacle est en plein milieu du quartier essénien. Les gens qui se rassemblent autour en entendant le bruit le jour de la Pentecôte sont évidemment des Esséniens, des disciples de Saint-Jean-Baptiste. Le discours de Saint-Pierre s'adresse manifestement à des Esséniens. Il cite en particulier Ézéchiel à propos de l'action du Saint-Esprit et de l'attente du moment du Sauveur, puisqu'il vivait uniquement dans cette attente. Il ne rendait plus le culte au temple. Et la conversion des Esséniens on a un ensemble d'indices convergents qui ne laissent pratiquement pas de doute. Et ça, il y a d'autres éléments. Donc, conversion en masse des Esséniens de Jérusalem, première enquête du Sanhédrin, intervention de Gamaliel, les apôtres subissent le fouet, mais ne sont pas mis à mort et continuent à prêcher. En 36, 3 ans plus tard, lapidation du diacre chrétien. Et à l'occasion, c'est le premier sang chrétien qui coule, en 36, et à l'occasion de la lapidation du diacre chrétien, Saül démarre la persécution. C'est-à-dire que Saül est apparemment le parti le plus violemment opposé aux chrétiens, le chef du parti le plus violemment opposé aux chrétiens. Et voici ce que dit les Actes, il ravageait l'église allant de maison en maison, il en arrachait les hommes et les femmes et les mettait en prison. Le souvenir de cette persécution est très fort quand, dans l'épître de saint Paul aux Hébreux, il le rappelle parce que c'est tout à fait à la fin, et le sentiment national était tellement fort qu'il s'est tenté de dire « mettons le Christ de côté et faisons front entre juifs contre les Romains ». C'est une tentation qui a été très très forte et c'est à cela, une fois qu'on a compris ça, on comprend très bien l'épître aux Hébreux qui peut-être est obscur autrement. Et dans l'Épître aux Hébreux, il leur dit, souvenez-vous de ce que vous avez le premier jour au moment de votre conversion, donc tout à fait au début, souvenez-vous de ce que vous avez souffert, ou souvenez-vous de la solidarité que vous avez montrée envers ceux qui souffraient comme vous. Dans l'Apocalypse aussi, la première église qui est dans le texte sur les sept églises, la première église dans l'Apocalypse est c'est l'église judéo-chrétienne. Et ce que dit le Christ à l'église judéo-chrétienne, si je connais tes mérites, je connais la grande épreuve que tu as subie pour moi, mais j'ai contre toi que tu as perdu ton amour de premier, reviens donc à ton amour premier, sinon tu seras, j'ai oublié le texte exact, mais tu seras oublié ou tu seras dispersé, tu disparaîtras. Je retenais cela parce que ça veut dire qu'il n'était pas fatal que l'église judéo-chrétienne disparaisse. Elle disparut parce que de l'intérieur, l'amour du Christ disparaissait tout doucement. L'hostilité envers les chrétiens non-juifs a grandi tout doucement, insensiblement. Tant que Saint Jacques le Mineur a été vivant, ça n'avait pas lieu. Mais vous verrez tout à l'heure ce que dit Saint Jacques le Mineur à l'apôtre Saint Paul. Eh bien, on voit que Saint Jacques le Mineur, pour arriver à rétablir la paix dans sa communauté, demande à Saint Paul pas une concession, mais... On sent que Saint Jacques le Mineur ne tient pas complètement les judéo-chrétiens. Et il dit, montre-leur que tu n'es pas contre la loi de Moïse. Parce que j'arriverai jamais à les garder en communion avec les églises de païens que lui a fondées. Voilà à peu près ce que veut dire le discours de Saint Jacques le Mineur à Saint Paul. Donc le texte de l'Apocalypse est intéressant, ça veut dire que l'église judéo-chrétienne ne devait pas fatalement disparaître en 70, enfin plus tard vers 200. Ce n'était pas une fatalité. Alors, donc il ravageait l'église allant de maison en maison, arrachant les femmes, les hommes et les femmes, les mettant en prison. Les textes que nous avons montrent un souvenir de terreur. Ça a duré très peu, mais apparemment c'était un souvenir qui a marqué pour très très longtemps l'église judéo-chrétienne. Les chrétiens de Jérusalem se dispersent chez leurs frères esséniens de Galilée, première mission en Galilée, dans les livres des actes, et on voit que les chrétiens de Jérusalem considèrent comme frères même des non-baptisés. Explication claire, c'est qu'ils étaient déjà frères avant, si vous voulez. En fait, ce sont des esséniens, et les autres, on voit dans les actes des apôtres, que les autres ne font aucune difficulté. Pour eux, Saint Jean-Baptiste annonce le Christ, quand on leur dit il faut être baptisé, recevoir la confirmation, ça ne pose aucune difficulté. Il est certain que la chronique des actes est simplifiée à l'extrême, mais on voit les Esséniens font bloc et tous basculent sans difficulté du côté du christianisme. À même époque, Saint-Pierre chez Simon le Corroyeur, avec le centurion Cornet, je vous en ai parlé, évangélisation de la Samarie. À la sortie de cette persécution, la communauté de Jérusalem sort ruinée, et elle ne survivra que grâce aux quêtes, aux collectes faites chaque année dans toutes les églises païennes du bassin méditerranéen. Bon, vous avez suffisamment lu les passages des épîtres de Saint Paul. Chaque année, Saint Paul collecte pour les saints de Jérusalem. Parce que l'église de Jérusalem sort ruinée. Elle ne vit plus maintenant. Alors, ce n'est pas parce qu'ils vivent dans le communisme et la communauté des biens et qu'ils devraient vivre des aumônes des autres. C'est qu'en fait, la persécution a ruiné complètement l'église de Jérusalem. La communauté des biens. La communauté des biens n'était pas une caractéristique spéciale. Ce n'est pas quelque chose qui aurait été brusquement inventé par suite de Jésus, prédicateur socialiste. C'était propre aux Esséniens. Dans les textes des Esséniens, parmi les crimes plus importants contre la communauté, il y avait, dans la règle de communauté, mentir en matière de biens. C'est-à-dire Ananie et Saphire font quelque chose qui était déjà considéré comme un péché grave. Ceux qui s'engageaient à vivre en commun dans la communauté ne devait pas mentir en matière de bien, et c'est considéré comme grave. C'est-à-dire que la communauté de Jérusalem se met à être encore plus fervente en tant qu'Essénien, si vous voulez. Jusque-là, seuls ceux de Qumran pratiquaient intégralement une forme plus parfaite de Naziréa. Vous savez que dans un juif qui faisait vœu de Naziréa, s'abstenait de relations conjugales avec sa femme tant que durait son vœu, ne se faisait plus couper les cheveux, ne devait pas boire de boisson alcoolisée, Et à la fin de son vœu, il allait offrir un sacrifice au temple pour montrer la fin de son vœu de Naziréa. Mais c'était un vœu bref. Les Esséniens pratiquent un Naziréa beaucoup plus sévère et total. C'est-à-dire que ce n'est pas une obligation, mais dans la communauté de Qumran, il reste célibataire, il pratique la chasteté, il ne mange aucune viande, il ne boit jamais d'alcool. Enfin, ils remplissent toutes les conditions, mais c'est à vie. Il semble que la communauté de Jérusalem se soit mise à pratiquer un petit peu plus que ce qu'elle pratiquait antérieurement, sans que la communauté des biens soit obligatoire, sans non plus que le célibat soit obligatoire, mais un peu plus qu'auparavant, d'une manière un peu plus conforme à ce qui se pratiquait dans la communauté de Qumran. Voilà pour la communauté des biens. Et voilà aussi l'origine des quêtes, c'est la persécution. La communauté de Jérusalem définitivement ruinée. Alors on a retrouvé les fouilles archéologiques dans le quartier essénien montrent que vraiment des gens très très pauvres. On ne trouve que des piécettes, c'est fou ce qu'on trouve comme pièces de monnaie, c'est-à-dire ça permet de dater les lieux d'habitation, que des petites piécettes, pas de monnaie lourde, des piécettes de bronze, et on trouve des objets en terre cuite, mais très pauvres. Visiblement, c'est un quartier, ils sont restés ruinés définitivement. Et probablement, les Sadducéens détenant tous les leviers de la prospérité économique, devaient les exclure complètement de tout le circuit économique qui tournait autour du temple et dont tout Jérusalem vivait. La situation des chrétiens en Galilée est beaucoup moins critique que celle de Jérusalem. Donc Jérusalem vit surtout des quêtes faites dans tout le bassin méditerranéen. En 40, conversion de Saint Paul, l'évangélisation progresse en Syrie. À Jérusalem, la persécution se calme et on a une preuve que les pharisiens ne sont pas satisfaits de la persécution. Quant à Agrippa, conseillé par les Sadducéens, croit se rendre populaire en arrêtant Jacques le Mineur, Saint Jacques le Majeur, et en le faisant exécuter, en arrêtant Saint Pierre. Les pharisiens se désolidarisent, ils se tiennent complètement à l'écart, il y a un désaveu des pharisiens. Et comme Agrippa ne persévère pas dans sa volonté de persécution, la communauté chrétienne jouit d'une certaine paix. Donc, délivrance miraculeuse de Saint Paul et Saint Jacques le Mineur, fils de Cléophas, second évêque de Jérusalem, 25 ans de paix. Les Sadducéens, le front sadducéen pharisien étant brisé, les Sadducéens devront recourir désormais à des méthodes de brigandage. Pour l'arrestation de Saint Paul, vous devez vous rappeler ce qui est raconté dans les Actes des Apôtres, émeute manipulée. Des gens venus de la synagogue des Affranchis, je vous ai montré où est-ce qu'on l'a retrouvé dans le plan de Jérusalem, abordent Saint Paul. Dans le temple, écrit « Voilà celui, il a fait entrer ». On ne l'accuse même pas d'avoir de mauvaise doctrine. On dit, voilà celui, il a fait entrer dans le temple de Jérusalem. Il a fait entrer dans le temple de Jérusalem, voilà où est la synagogue des Affranchis, voilà le quartier essénien, voilà le Cénacle. C'est suffisant. Il a fait entrer dans le temple de Jérusalem des non-juifs. Vous savez qu'à l'intérieur du Soreg, le mur... il y avait un mur qui délimitait le parvis des Juifs et seuls les circoncis avaient le droit d'y pénétrer. Donc ils accusent Saint Paul d'avoir commis ce crime, de faire entrer des païens. Bon, mais c'est une émeute manipulée. Les pharisiens sont réduits à des méthodes de terrorisme, de banditisme. Quand Saint Paul est arrêté, pour arriver à le faire exécuter, ils sont réduits. On voit quand Saint Paul est arrêté, les pharisiens prennent le parti de Saint Paul. C'est les Actes des Apôtres. Et pour essayer de le faire assassiner, ils sont réduits à monter un complot. Vous vous rappelez l'affaire, ils essaient de le faire venir à Jérusalem en tentant de monter un attentat pour le tuer en cours de route. Mais on voit des méthodes crapuleuses parce qu'ils n'ont plus de levier, ils n'ont plus de moyens d'action qu'ils avaient initialement. On sent que les pharisiens se désolidarisent complètement. De même, quand ils réussissent à monter le piège pour tuer, monter leur piège pour tuer Saint Jacques le Mineur, ce sont les pharisiens qui exigent la démission de Hanan ben Hanan, le grand prêtre, ils obtiendront, dès que le gouverneur va être entré, ils obtiendront la destitution de Hanan, le grand prêtre qui avait fait assassiner Saint Jacques le Mineur. Donc on voit que à partir de maintenant, les Sadducéens, par contre, l'hostilité des Sadducéens ne se dément jamais. Ça se sent aussi dans l'épître de Saint-Jacques, c'est l'épître de Saint-Jacques le Mineur. Et Saint-Jacques le Mineur, quand il dit « Qu'avez-vous à aller flatter les riches dans vos communautés ? Ne savez-vous pas que c'est justement les riches qui nous oppriment ?» En fait, c'est les Sadducéens qu'il vise. C'est la mafia de luxe qui domine sur le temple, et ce sont eux dont l'hostilité contre les chrétiens ne se démentira jamais, au moins pendant cette première période. La communauté attend 10 000 personnes. Voilà, le chiffre est confirmé à la fois par la surface du quartier essénien, par le nombre d'ossuaires chrétiens retrouvés dans ces dernières années à Jérusalem. Et puis le texte des Actes, quand Saint Paul a rassemblé une partie de la communauté en présence de Saint Jacques le Mineur et raconte les conversions des païens dans tout le bassin méditerranéen, je vous cite le passage, en l'écoutant et glorifiant Dieu, puis ils lui dirent, tu vois frère combien de dizaines de milliers de juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi. Donc plusieurs dizaines de milliers, l'estimation 10 000 personnes dans la communauté judéo-chrétienne. Alors leur coutume, leur liturgie. Dans les Actes des Apôtres, on voit qu'ils continuent à observer tout le culte du temple. C'est-à-dire qu'ils montent au temple 3 fois par jour pour faire la prière. Il y a une zone qui était réservée aux Esséniens. N'oubliez pas l'exclusivisme des Esséniens. Ils ne frayaient pas pour ne pas être impurs avec d'autres Juifs. Ils continuent à prier au temple, mais par contre, comme ils n'offraient plus de sacrifice au temple, ils n'ont aucune difficulté à ce que désormais le sacrifice soit la messe. C'est-à-dire que le culte du temple est devenu tout naturellement, de façon sans hiatus, est devenu la messe. Mais il continue à observer la circoncision, l'ensemble des fêtes juives, les lectures de l'Ancien Testament, toutes les pratiques de l'Ancien Testament, les manger cachères, enfin, même pas d'ailleurs parce qu'ils ne mangent pas de viande, ils s'habillent avec du lin. Parce que non seulement ils ne mangeaient pas de viande du tout, ils poussaient encore plus loin les interdits alimentaires juifs et ceux des pharisiens, eux, pas de viande du tout. Ensuite, sauf l'agneau pascal, qui était de précepte, bien sûr. Ensuite, ils portaient du lin pour ne pas porter d'animal, de vêtements à base d'animaux sur eux, donc ils se vêtaient uniquement de lin. Ils jeûnaient 3 fois par semaine. Le mercredi, d'ailleurs on l'a encore, hein, le mercredi, le vendredi et le samedi. Ils avaient un calendrier particulier, on en trouve des traces dans les épîtres de Saint Paul. Ils avaient arrangé leur calendrier pour que les fêtes juives tombent toujours le même jour de la semaine. Donc certains jours de la semaine étaient sacrés et il fallait s'arranger. Ils avaient arrangé le calendrier avec les lunaisons et on pouvait ajuster les lunaisons avec les mois. On pouvait tricher sur les lunaisons de telle manière que les fêtes qui tombent tel jour de tel mois tombent toujours un jour donné de la semaine. Et leur calendrier ne coïncidait pas avec celui des pharisiens, en sorte qu'ils ne célébraient pas la fête de Pâques à la même date que on le célébrait au temple. Il y avait un décalage de 2 jours ou de 3 jours suivant les années. Parce qu'il fallait que la fête tombe un jour sacré. Et je crois que c'était le jeudi, enfin un jour qui tombait le lendemain d'un des jours de jeûne. Tandis que les pharisiens avaient établi un calendrier où la fête devait tomber à une date précise, mais pas un jour précis. Il nous reste quelque chose comme ça. Vous savez, dans le calendrier liturgique catholique, il y a le sanctoral et le temporal. Certaines fêtes qui sont réglées pour tomber toujours le même jour, comme Pâques qui doit tomber obligatoirement un dimanche, tandis que certaines fêtes de saints tombent toujours la même date et donc pas toujours le même jour. Eh bien, vous aviez la même dissociation entre... Alors, Saint Paul, au passage, veille à ce que les gens ne se disputent pas, parce que, comme une partie des convertis dans le bassin méditerranéen étaient des juifs de la diaspora, les uns observaient, étaient des Esséniens, et observaient le calendrier essénien, et Saint Paul, dans un de ses passages, dit, l'un observe les jours, s'il le fait pour rendre gloire à Dieu, qu'il rende gloire à Dieu, celui qui ne les observe pas, eh bien, il sait que tous les jours sont égaux devant Dieu, mais qu'il rende gloire à Dieu, mais que l'un ne juge pas l'autre, que l'un ne condamne pas l'autre. De même, un tel pense que il faut absolument jeûner, il le fait pour rendre gloire à Dieu, que celui qui ne jeûne pas n'a pas le mépriser, que celui qui jeûne n'a pas mépriser l'autre. On sent que les tensions portent pas sur des choses essentielles, mais sur les pratiques très particulières propres aux Esséniens. Et en fait, c'est ça qui va se durcir vers les Esséniens. Dans l'Apocalypse est écrite vers 90, mais c'est certainement les souvenirs personnels de Saint Jean. Là, c'est un livre inspiré, mais ça n'exclut pas les souvenirs personnels. J'ai contre toi que tu as perdu ta première ferveur, parce que en fait, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ finit tout doucement par être étouffé par une attache exagérée à ses pratiques. Donc, ils étaient végétariens. Ils pratiquaient beaucoup d'ablutions. Chaque maison avait des bains spéciaux pour les ablutions, un calendrier spécial et prière au temple dans la zone réservée aux Esséniens. Pour Saint Jacques le Mineur, j'ai un texte un peu long. Il était fils d'Alphée et de Marie, sœur de la Sainte Vierge. Voici le portrait que Zèbe et Saint Jérôme en donnent d'après Hégésippe. Il vécut toujours dans la virginité, il était nazaréen, à vie, c'est-à-dire en fait comme les Esséniens. En cette qualité, il ne but jamais de vin ni de quelconque liqueur capable d'enivrer, il ne coupa jamais ses cheveux, comme les naziréens. Il s'interdit l'usage des bains et des parfums. Ça ne veut pas dire qu'il ne prenait pas les bains de purification, ça veut dire qu'il n'allait pas dans les bains publics comme les Romains. Depuis l'époque des Maccabées, si vous avez lu le texte des Maccabées, un des signes des Juifs qui étaient tentés par les mœurs grecques, c'était le fait d'aller au bain grec. Et alors, comme ils avaient honte de leur circoncision, parce qu'on se baignait tout nu, ils ne voulaient plus circoncire leurs enfants. Alors, chez les gens de stricte observance de l'époque, datant des Maccabées, les bains publics étaient quelque chose de païen, voilà. Alors c'est en ce sens-là qu'il est dit que Saint Jacques le Mineur s'interdisait l'usage des bains et des parfums. Il ne mangeait rien qui eût vigne, excepté l'agneau pascal qui était de précepte. Il ne portait point de sandales. Il n'avait point d'autre vêtement qu'un manteau de tunique de lin. Il se prosternait si souvent pour prier que ses genoux et son front en étaient devenus aussi durs que la peau d'un chameau. Et une sainteté aussi éminente mérita de la part des Juifs le surnom de Juste. Hégésippe ajoute qu'il avait le privilège d'entrer, lorsqu'il le voulait, dans cette partie du temple dont la loi ne permettait l'entrée qu'au seul temple, au seul prêtre, parce qu'il était vêtu de lin et non de laine. Et il est dit aussi, qu'il portait la lame d'or sur le front. Alors vous vous rappelez, la lame d'or sur le front, c'est un des ornements du grand prêtre. Et ces deux points, ça a posé d'énormes questions aux érudits, tant qu'on n'avait pas les documents de Qumran, parce qu'ils disaient comment est-il possible, au même temps qu'on n'avait pas la connaissance que nous avons maintenant de la communauté judéo-chrétienne, comment est-il possible que si les chrétiens étaient mal vus des juifs dans Jérusalem, ils aient pu arriver à être grand prêtre, parce que c'est ça que ça veut dire, qu'il soit entré dans le Saint des Saints, il fallait qu'il soit grand prêtre, qu'il ait eu la lame d'or sur le front, ça voulait dire qu'il était grand prêtre. Et quelque chose qui était, enfin, je voulais, on se disait, on a ce document, c'est pas un plaisantin, ça date de la génération d'après les apôtres, mais quelque chose qui ne va pas, ça doit être faux quelque part. Alors nous n'avons pas de preuves, mais il n'est pas exclu que brièvement, attendez, autant reprendre la chronologie, vous l'ayez sous les yeux, il n'est pas exclu que très brièvement, entre deux grands, donc quelque part après 49 sans doute, entre deux grands prêtres, très brièvement, Saint Jacques le Mineur se soit trouvé grand prêtre en raison de sa popularité. Lorsqu'on l'exécuta, un des fils de Récab dont parle Jérémie, qui est une des communautés de Récabites vivait à Jérusalem, s'écria cessez, on est en train de lapider Saint Jacques le Mineur, cessez, que faites-vous, le juste prix pour vous. Donc on voit que les Sadducéens Vous voyez la différence entre la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Les Sadducéens, les gens du peuple crient contre les Sadducéens et ils n'ont absolument pas peur d'eux. On a vraiment l'impression d'une poignée de gens qui ont fait un coup d'État par violence, mais le cri du cœur, en tout cas celui du récapit, mais que faites-vous? C'est le juste et il prie pour vous. Alors, bon, ça reste quand même hypothétique, ça repose sur un document. Mais il n'est pas impossible que très brièvement, le basculement de tout Israël, il suffisait du grand prêtre et la reconnaissance que Jésus, par le Sanhédrin, que Jésus était bien le sauveur, pour que tout Israël bascule. Les pharisiens étaient favorables. Il y avait juste la poignée de Sadducéens. Et finalement, ce qui est impressionnant, c'est le mystère du mal, c'est qu'une poignée de gens antipathiques, complètement pourris, antipathique au peuple, complètement pourri, a réussi à tenir un peuple entier dans le rejet de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est impressionnant, ça. Alors, c'est vrai que dans l'histoire de l'Église, on a des choses semblables. On voit Henri VIII. Henri VIII, il était pourri. C'est une putréfaction vivante à la fin de sa vie. C'est vraiment un tas de graisse qu'on soutenait, qui ne circulait qu'avec des bâtis à roulettes, tellement le bonhomme... Et c'était une putréfaction vivante. Il avait de l'eczéma partout, il se fait la tête partout. Et puis, vous voyez, une poignée de gens sans scrupules ont fait basculer tout un peuple. Bon, tout ce qu'on voit de Saint-Jacques le Mineur, j'ai un autre texte où il y a d'autres appellations, mais enfin, en gros, on l'appelait le Saint, le Juste, le Défenseur d'Israël, mais c'est quand même impressionnant, tous les qualificatifs qu'on donnait à Saint-Jacques le Mineur. Quoique connu comme chrétien, membre de la communauté essénienne, et ayant toutes les fois, visiblement, tous les jours, il priait au temple, et il y a un immense prestige parmi le peuple. Alors, comment est-ce qu'on l'assassina? Et Jésus donne les circonstances, et sont les mêmes qui se trouvent dans Flavius Joseph, c'est-à-dire qu'on a deux documents convergents avec les mêmes personnages, les mêmes noms et les mêmes circonstances. L'apôtre fut invité au Sanhédrin, et on lui demanda... On lui demanda, faut-il... Oh, non, je ne trouve plus le texte. Tant pis. On lui demandera, dis-nous, toi qui es le juste, toi qui es le sage et éclairé de Dieu, dis-nous si il faut vraiment croire que Jésus-Christ est le Messie ou non. Et Saint-Jacques le Mineur, bien entendu, répond, oui, Jésus-Christ est le Messie, vous devez le reconnaître. Alors Anan ben Anan s'arracha les vêtements en criant, malheur, le juste lui-même s'est laissé séduire. Et puis le traînèrent à l'extérieur du temple, jusqu'au pinacle du temple. Alors je vais vous montrer le pinacle, la production que je vous ai montré tout à l'heure. Le pinacle du temple, c'est le point le plus haut du temple en bordure, c'est dans l'autre sens, en bordure du portique de Salomon, là où il y avait entre 150 et 200 mètres de chute jusque tout à fait en bas. C'est l'endroit le plus haut de la plateforme du temple. En lui disant, dis au peuple, pour détromper le peuple qui croit que Jésus-Christ est le sauveur, dis devant tout le monde, maintenant que le peuple est rassemblé en bas, que Jésus-Christ n'est pas le sauveur. Alors Saint-Jacques le Mineur fit semblant et dit, je dirai la vérité, conduisez-moi. Et puis, il dit que Jésus, fils de l'homme, qui avait été crucifié, était assis à la droite de la majesté divine comme fils de Dieu et qu'il viendrait un jour sur les nuées du ciel pour juger l'univers. Les scribes et pharisiens transportés de fureur s'écrièrent, quoi donc, l'homme juste est aussi égaré? Aussitôt, ils le poussèrent et le précipitèrent en bas. L'apôtre ne mourut point de sa chute, il eut encore la force de se mettre sur ses genoux. Dans cette posture, il leva les mains au ciel et pria à Dieu de pardonner à ce meurtrier en disant, ils ne savent pas ce qu'ils font. Une grêle de pierre se mit à tomber depuis les hauts du temple et jusqu'à ce qu'enfin un foulon l'acheva en déchargeant sur sa tête un coup de levier dont il se servait pour fouler les draps. Un des récabites, fils de Récab, qui était en bas, s'écria, cessez, que faites-vous, le juste prie pour vous. Le saint fut enterré près du temple, à l'endroit où il avait été martyrisé, et l'on éleva une petite colonne sur son tombeau, donc dans Égésip. Voilà, la fin de la mort de Saint-Jacques le Mineur. Un événement important dans la vie de Saint-Jacques le Mineur, que je vous ai cité tout à l'heure, en 49, le Concile de Jérusalem. Le Concile de Jérusalem. avec la conversion des païens, se pose de façon aiguë les règles qu'on exige des païens. Avec la demandait qu'on leur fasse observer la totalité de la loi de Moïse et même toutes les pratiques esséniennes. Et saint Pierre, qui au début avait, sous l'effet de sa vision, avait dit « il n'en est pas question », il n'avait pas exigé pour le centurion Corneille, on voit dans saint Paul que tout doucement, saint Pierre devait être un Essénien et n'allait plus, évitait de se mélanger avec les Grecs. C'est-à-dire que même des baptisés qui n'étaient pas Esséniens, il les évitait. Et donc saint Paul, vous savez que saint Paul et Barnabé racontent les conversions, font prévaloir leur point de vue. Et alors, ce qu'on exige des païens, c'est très intéressant, parce que, si vous avez déjà lu ce qu'on exige d'eux, c'est un peu déroutant. En fait, ce sont les lois noachites, ce qu'on demandait en Israël aux prosélytes. Lorsqu'un païen voulait croire au vrai Dieu, on ne lui demandait pas la circoncision, mais la coutume s'était établie de demander ce qu'on appelait les lois noachites, étant par une pieuse fiction considérée que c'était la manière que Noé avait d'être juste, et Noé c'était avant Abraham, donc on demandait aux prosélytes d'observer ce qui était fictivement pratiqué avant Abraham. Donc ce qu'on demande, c'est l'abstention des viandes étouffées, c'est-à-dire manger cachère, pas de culte des idoles, et l'abstention de fornication semble désigner en fait l'interdiction des mariages consanguins. Ça ne signifie pas l'absence de péché mortel, ça ne signifie pas ne pas commettre de péché mortel, ce qui va de soi, c'est des restrictions sur la liberté du mariage, pas de mariage consanguin. Voilà. L'apostolat des 16 Esséniens est très dynamique. On voit dans les actes, dans les épîtres de saint Paul, que partout où il y a une synagogue qui s'est convertie, derrière saint Paul, et les Esséniens arrivent derrière lui et leur disent qu'il faut absolument observer comme à Jérusalem. Et étant donné le prestige qu'a l'église de Jérusalem, il a une énorme horizonte, une grosse influence sur les... Ils ont une grosse influence surtout sur les Juifs, qui sont devenus chrétiens. Et saint Paul, au fur et à mesure de la succession de ses lettres, est de plus en plus dur contre eux. À la fin, vous vous rappelez peut-être, je crois que c'est dans la deuxième épître aux Colossiens, je crois. Ils sont juifs, je suis aussi, fils d'Abraham, je suis aussi, apôtre de Jésus-Christ, je le suis plus qu'eux. Enfin, vous avez tout une... parce qu'il en a assez, quoi. Petit à petit, leur apostolat, il est moins important pour eux de convertir au Christ un païen que de ramener aux pratiques esséniennes les juifs qui ont reconnu, ou même éventuellement les païens qui ont reconnu notre Seigneur Jésus-Christ. On voit que c'est une difficulté pour Saint-Jacques le Mineur. Tant que Saint-Jacques le Mineur est vivant, la communauté essénienne ne se durcit pas trop. Et pourtant, quand Saint-Paul vient, Saint-Jacques le Mineur lui dit « Tu vois, frère, combien de dizaines de milliers de Juifs ont cru, tous sont les zélés pour la loi. Or, on leur a fait croire que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens de se détourner de Moïse, en leur disant de ne pas circoncire leurs enfants et de ne pas suivre les coutumes. » Certes. Alors, il ne lui dit pas « Je rejette les prescriptions du Concile de Jérusalem. » Il lui dit « Il faut absolument faire une mesure d'apaisement pour que tu montres que tu estimes, que tu les trouves belles, que tu les trouves bonnes et que tu ne les désavoues pas. » Donc, fais publiquement une des pratiques, par exemple, il lui demande une des pratiques pour qu'on voit que tu estimes et que tu respectes les pratiques de la loi de Moïse. Donc, il n'y a aucun mensonge, aucune duplicité là-dedans. Simplement, on voit que Saint-Jacques le Mineur voit que les judéo-chrétiens sont en train de se monter la tête et de devenir de plus en plus hostiles à toute cette église qui ne pratique pas toutes leurs propres pratiques. Alors, certainement, la multitude se rassemblera quand on saura que tu es venu. C'est pourquoi, fais ce que nous disons. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les, purifie-toi avec eux, charge-toi de la dépense pour qu'ils se rasent la tête. Alors tous sauront qu'il n'y a rien de vrai de ce qu'on leur a fait croire sur ton compte, mais que toi aussi, tu te conduis un observateur de la loi. Quant aux païens, et qui ont cru, nous avons jugé bon de leur prescrire qu'ils se gardent des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'inconduite. Bref, voyez, il lui dit, nous ne rejetons absolument pas les prescriptions du concile de Jérusalem pour les païens, mais ils se montent tous la tête en disant que tu es devenu l'ennemi de la loi de Moïse, donc montre-leur que c'est pas vrai, et qu'ils sont vraiment, dans les autres églises chrétiennes, on n'est pas devenu, ils ne sont pas passés côté païen. Mais bref, ce discours de Saint Jacques le Mineur montre le lent durcissement de l'église de Jérusalem. Alors, assassinat crapuleux en 62 de Saint Jacques le Mineur, et les pharisiens prennent positivement position contre et obtiennent la destitution de Hanan ben Hanan par Agrippa II. Saint Jacques le Mineur meurt à 96 ans. En 67, les chrétiens avertis prophétiquement fuient Jérusalem. Je vous rappelle la situation, les gouverneurs romains soutiennent de plus en plus les zélotes, se servent d'eux comme hommes de main dans leurs assassinats, profitent des soulèvements locaux pour piller, pour envoyer l'armée, et quand ils sont traités comme pays en guerre où règne le droit du pillage, là, après, vous voulez, pour s'enrichir plus vite, et donc ça devient de moins en moins vivable. En 67, les chrétiens avertis prophétiquement fuient Jérusalem, s'installent à Pella, alors que la première armée romaine avait brièvement battu en retraite. Jérusalem était déjà assiégée, une armée romaine bat en retraite, ils s'enfuient, quittent Jérusalem. La tentation à cette époque-là était très forte d'oublier le Christ et de faire front commun avec les autres juifs, même qui ne croyaient pas en Jésus-Christ, contre les Romains. C'est cela que saint Paul a en vue dans l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux peut être datée de 67 et elle s'adresse aux chrétiens à ce moment critique où il y a la foi, l'exaltation du nationalisme juif parce qu'ils ont eu une première victoire contre les Romains, le soulèvement contre les païens, et d'un autre côté, la très très forte tentation de mettre notre Seigneur Jésus-Christ de côté, vous voyez, de faire passer le temple avant Jésus-Christ, finalement, la défense du temple avant Jésus-Christ. Alors voilà l'intention de saint Paul dans l'Épître aux Romains. Là, après la ruine de Jérusalem, les chrétiens reviennent dans Jérusalem, réoccupe. Alors, on a des preuves archéologiques, on a retrouvé des monnaies datant à partir de 75 à peu près, on a retrouvé des monnaies dans le quartier essénien, donc il montre que ce quartier essénien a été réoccupé. On le sait aussi par des documents de l'époque. Les documents manquent, donc ils se réinstallent à Jérusalem. Ils ont pour nouvel évêque Saint-Siméon, fils de Cléophas, frère de Joseph, évêque, martyrisé en 107. Et ensuite, pour la suite, il n'y a pratiquement plus de documents. Simplement, ce qu'on constate, c'est que les évêques qui se succèdent dans les années qui suivent durent chacun, aucun ne dure plus de 2 ans. C'est-à-dire que c'est une véritable hécatombe. Un fait critique, je ne sais pas si je l'ai mis là-dessus, c'est qu'en 90, ce qu'on appelle le synode de Jamné est une quasi-réunion d'un Sanhédrin, mais il n'y a pas de Sanhédrin, ce ne sont pas des Sanhédrites. L'autorité du Sanhédrin a entièrement disparu, elle est rayée, mais un quasi-Sanhédrin organisé par les pharisiens exclut désormais de la synagogue les chrétiens. Et des mesures pratiques sont faites pour que disparaissent les chrétiens, qui est la secte, en gros la secte pas au même sens que secte pharisienne, si vous voulez, la secte chrétienne disparaisse. Alors on en a des traces dans les Talmuds. Par exemple, les directives qui datent à peu près de cette époque, les directives en cas d'incendie d'une synagogue. Alors, on sauve obligatoirement tous les livres sacrés de l'incendie, qu'ils soient encore en usage ou n'y soient plus. Et ceci, même s'ils sont écrits en grec. On les sauvera du feu, mais ensuite on les conservera en Genitza. C'était, une espèce d'arrière-bibliothèque, parce qu'on devait traiter avec respect même les vieux manuscrits, jusqu'à ce qu'ils tombent en poussière. Quand on ne sauvera pas de l'incendie les Gilionim. Alors c'est un jeu de mots, je ne sais pas ce que vous dites glionim en hébreu, mais c'est un mot à sens défavorable, et c'est un jeu de mots avec evangelion, C'est ce qui veut dire évangile, du grec, quoi. C'est-à-dire qu'on ne sauvera pas les évangiles, et les cifres minimes, c'est les histoires fausses. Alors, minime, c'est un nom, je ne sais pas non plus ce que ça veut dire, mais c'est un nom injurieux contre les chrétiens, les histoires des chrétiens. En réalité, ce sont les actes des apôtres ou bien les épîtres. Au contraire, on les laissera brûler sur place, sans égard aux mentions divines qu'ils contiennent. Voilà. Alors, il y a d'autres passages, mais vous voyez que ces descriptions, ces directives concernant les synagogues, principalement en Galilée, montrent que, laissent penser que dans de très nombreux synagogues, les évangiles se trouvaient en même temps que les rouleaux de la loi. Et ça donne à penser que quand les actes des apôtres disent que la Galilée et la Samarie se sont entièrement convertis, ça n'est pas une exagération. Substantiellement, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a la grande masse des Juifs loin de Jérusalem, semble-t-il, s'était vraiment convertie. Mais la rupture, c'est ce synode de Jamnée, synode qui n'a pas réellement d'autorité, qui impose désormais la halakha pharisienne, toute la tradition pharisienne qui sera codifiée et mise en forme dans les Talmuds, qui seul s'impose. Les zélotes ont entièrement disparu, et les sadducéens aussi. Avec la ruine du temple, plus de sadducéens, les seuls à survivre, ce sont les pharisiens. Alors en 117, révolte de Bar Kokhba, qui se faisait passer pour le Christ, il avait fait trafiquer la prophétie de Daniel pour qu'elle puisse s'appliquer à lui. Évidemment, les dates n'allaient pas, mais enfin, il y a toujours moyen de forcer un petit peu. Et d'après les documents, on dispose de documents qui montrent que les chrétiens furent les premières victimes. Chaque fois qu'il y avait un soulèvement, les chrétiens qui se trouvaient dans les villes où se trouvaient des juifs étaient Bar Kokhba, c'était leur premier objectif, si vous voulez. Ils étaient les premières victimes. Alors ça explique, d'une part, les judéo-chrétiens sont pris dans un étau, leur cœur d'un autre côté se durcit. À partir de 136, lorsque les Romains installent à Jérusalem des Grecs, c'est-à-dire des non-juifs, pour essayer, à Jérusalem a été nommée Elia Capitolina, pour vous faire oublier même le nom de Jérusalem. Les Romains installent des païens pour qu'il y ait des non-juifs sur Jérusalem, et parmi ces non-juifs qu'ils ont déportés, il y a des chrétiens, des Grecs, et arrive à Jérusalem le premier évêque grec qui va se trouver en rivalité, en concurrence, avec un des évêques judéo-chrétiens, qu'il voit arriver comme un ennemi, dans les fourgons de l'ennemi, déjà mal disposé, et les Grecs eux-mêmes ont la mauvaise disposition, si vous voulez, du fait qu'on veillait soigneusement à ce que les chrétiens ne judaïsent pas. C'est-à-dire que il y avait toujours un danger de dire que Jésus-Christ était facultatif, si on continuait à observer l'agneau pascal, par exemple. Ça justifiait parfaitement pour des juifs qui vivaient sur cette forme de piété et pour qui l'achèvement par notre Seigneur Jésus-Christ était évident. Pour des païens qui avaient tout à apprendre, il y avait un danger qui était tout à fait réel de donner plus d'importance aux pratiques matérielles qu'à notre Seigneur Jésus-Christ. Il semble d'ailleurs que l'islam provienne de judéo-chrétiens qui ont émigré en Arabie. Et qu'est-ce qui restait dans l'islam? Eh bien, des pratiques, tout simplement. Vous avez la fête du mouton, la circoncision, le pèlerinage annuel à Jérusalem. Alors, c'est pas Jérusalem, c'est la Mecque, mais enfin, le ramadan qui est le carême tel que le pratiquaient les Esséniens, c'est-à-dire les 40 jours, comme vous savez, les 40 jours en souvenir des 40 jours dans le désert de Moïse, où on ne mangeait qu'après le coucher du soleil. Bon, bref, vous trouvez les parties matérielles qui sont restées, et puis notre Seigneur Jésus-Christ, ça s'est évaporé, si vous voulez, ça n'a pas été. Vous voyez pourquoi il y avait un danger réel, un danger qui n'existait pas pour des Juifs à Jérusalem, qui existait pour les païens. Alors, on se trouve devant deux communautés qui sont chrétiennes, avec l'évêque grec considéré comme un intrus, qui regarde ces judaïsants avec suspicion, qui les soupçonne de ne pas croire que Jésus-Christ est bien le Sauveur, parce qu'il continue à observer l'agneau pascal, une incompréhension totale entre les deux, et il semblerait que les judéo-chrétiens étaient de plus en plus soupçonnés d'être hérétiques, avec sans doute un certain fondement. Ne plus croire que Jésus-Christ était le Sauveur, ne plus accepter d'autres évangiles que l'évangile selon saint Matthieu, et puis on en perd la trace. Voilà, la triste fin, la triste histoire de l'Église judéo-chrétienne. À retenir, d'abord la miséricorde de Dieu. Vous voyez le la la ré, le comment le comment le la chance donnée aux Juifs de recevoir ce qui leur avait été promis, être vraiment le peuple par lequel le Sauveur serait donné au reste du monde, et sans eux, il ne serait pas de reste du monde. Le peuple sacerdotal, qui normalement aurait été pour tous les peuples la tribu de Lévi, comme en Israël, il y avait la tribu de Lévi qui avait le monopole du sacerdoce, les Juifs auraient eu le monopole du sacerdoce pour le monde entier, et le Jérusalem, le même rôle que Rome pour le monde entier, voilà ce qui était promis. Eh bien, on peut dire que Dieu est fidèle très largement à sa promesse. C'est pas tombé comme un coup près le jour de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez eu vraiment tendu, vous voyez, aussi maternellement que possible, la main tendue aussi maternellement que possible jusqu'en 70, pendant 35 ans environ. Voilà, la moitié de la semaine d'année pendant laquelle le prophète Daniel dit il se réconciliera un grand nombre. Deuxièmement, ça a failli réussir. Parce que c'est peut-être vrai que Saint Jacques le Mineur a pu être très brièvement grand prêtre de Jérusalem. C'est peut-être vrai. Mais ça n'a pas dû durer très longtemps. Et en fait, on n'a plus de documents là-dessus, justement à cause des suspicions dans lesquelles étaient tombés les judéo-chrétiens, qui fait que dans les pères de l'Église, on n'en parle pas. Les documents sont assez rares. Et enfin, dernier point qui montre qu'il n'y avait pas de fatalité à sa disparition. Elle aurait très bien pu subsister pendant très longtemps. C'est au début de l'Apocalypse, je crois au livre 2e ou au livre 3e, la première église auquel s'adresse le Christ, c'est visiblement l'église judéo-chrétienne de Jérusalem. Il y a des indices qui permettent de reconnaître. Et le reproche qu'il lui fait, c'est « J'ai contre toi que tu as perdu ton premier amour. » Et fais pénitence parce que sinon tu vas perdre ton héritage. Autrement dit, il n'était pas fatal que l'église judéo-chrétienne disparaisse comme elle a disparu. Ce n'est pas la persécution qui l'a fait disparaître, c'est l'affaiblissement de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Un attachement qui est devenu trop fort, qui est devenu prioritaire à toutes les aux pratiques esséniennes. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop saturé, en plus qu'il doit être tard. Oui, misère. J'ai pu effleurer que certains sujets. Je serais très content qu'il y ait des questions pour pouvoir parler. Oui. J'en sais rien. Mais manifestement, sa prédication n'est pas, si vous voulez, il n'y a pas d'hostilité, puisque il achève la mission de Saint Jean-Baptiste, mais manifestement, notre Seigneur Jésus-Christ ne se comporte absolument pas comme un Essénien. Maintenant, ce n'est pas exclu du tout que la Sainte Vierge Marie, Saint Joseph se soient trouvés Esséniens. Il semble que ce qu'il y avait de plus saint et de plus pur en Israël, en gros, la secte la plus saine et la plus pure, était Essénienne. Mais tout le monde n'avait pas la rigueur de vie de Qumran, et c'est possible que, au point de vue sympathie, la Sainte Vierge et Saint Joseph est plutôt penché vers les Esséniens, mais en fait, j'en sais rien. En tout cas, c'est une thèse qui ne repose pas sur des documents. Je vous avançais des choses qui reposent sur des documents et qui, pour l'instant, se recoupent suffisamment pour qu'on puisse considérer comme c'est solide. Dire quelque chose au sujet des préférences religieuses de Sainte Vierge, de Saint Joseph et donc de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est hasardeux, il n'y a pas de document. On peut dire, par exemple, que dans les prédications de notre Seigneur, des choses qui ressemblent. Par exemple, quand il refait approche aux pharisiens, il dit hypocrite pour le jour du sabbat. Si votre bœuf tombe dans la citerne, quand vous l'avez emmené à boire un jour de sabbat, est-ce que vous ne l'en tirez pas, même un jour de sabbat? Il se trouve que dans l'un des documents de Qumran, je ne sais plus lequel, parmi les interdits, on observe le sabbat tellement strictement que même si la bête tombe dans la citerne, on ne la ramasse pas, on ne la sort pas un jour de sabbat. Donc vous voyez, notre Seigneur, en argumentant contre les pharisiens, se trouve se servir d'un argument essénien. Mais ça ne veut pas dire qu'il est lui-même, puisque au fond, il dit « Le Fils de l'homme est maître même du sabbat, il est permis de faire du bien. » Donc je crois qu'il aurait dit « Sauver la pauvre bête, même un jour de sabbat. » Mais vous voyez, on ne peut pas, le fait qu'il y ait quelques rencontres, que notre Seigneur utilise certains arguments qu'on trouve, qui semblent avoir été ceux des Esséniens, ne permettent pas d'affirmer positivement quelque chose.
Oui. Le Vatican a fait une pression pour étouffer ses recherches.
Non, pas pour faire, pas étouffer. Le Vatican, c'est beaucoup dire. Ce qu'il faut dire, c'est que les universités romaines, c'est-à-dire que les professeurs d'archéologie biblique, de droit, d'écriture sainte, etc., font exactement comme si ça n'existait pas. Ils continuent à faire leurs cours comme si on était en 1930, où aucune de ces découvertes n'était faite. Ils n'en tiennent aucun compte. Par exemple, la découverte, c'est O'Callaghan qui a décrypté les manuscrits de la grotte 7. Je vous donne quelques exemples des fragments qui ont été retrouvés, qui ont été reconstitués dans la grotte 7 de Qumran. Ils font exactement, ils continuent leur cours d'écriture sainte exactement comme si ça n'existait pas, comme si on n'avait rien trouvé. Et quand ils parlent des manuscrits les plus récents de l'Évangile, ils font comme si on ne les avait pas trouvés. Et le plus drôle, c'est que c'est reconnu par toute la communauté internationale, par des protestants, par les sommités en papyrologie, et puis dans les cours des universités romaines, ça n'existe pas. Alors on ne peut pas dire qu'il y a une pression policière ou qu'il y a un complot, ce n'est pas ça. C'est que on fait comme si ça n'existait pas. Oui. Apparemment, si on en croit saint Paul, il y avait dans toute la diaspora des Esséniens. Il y avait des pharisiens dans toute la diaspora, il n'y avait pas de sadducéens dans la diaspora, il y en avait manifestement que les parasites installés uniquement autour du temple, si vous voulez, là où c'était juteux. Indubitablement des pharisiens dans la diaspora, mais indubitablement des Esséniens. Étant donné, d'après ce qu'on peut deviner, des difficultés que rencontre saint Paul, ça veut dire qu'il y avait des Esséniens dans la diaspora, donc qu'on était accueillis. Enfin, il n'est pas invraisemblable, enfin, il est tout à fait compréhensible, ils étaient accueillis comme des frères dans le quartier essénien. Tout en plus qu'on était près de Pâques, et à Pâques, Jérusalem montait à 2 millions d'habitants. Alors c'est Flavius Joseph qui donne les chiffres. Bref, cette ville de 500 000 habitants montait à 2 millions d'habitants, et il devait y avoir des gens, enfin, les gens devaient vraiment coucher dans tous les recoins ou dormir dans tous les recoins à Jérusalem. Et ceux qui venaient de très loin, qui pouvaient au maximum faire le voyage de Jérusalem une ou deux fois dans leur vie, qui avaient 1000 km à faire, par exemple, eux restaient le plus longtemps possible. Enfin voilà, je sais pas, une réponse qui... Maintenant, je n'y étais pas, je ne peux pas vous donner plus que... Bon, écoutez, regardez aujourd'hui... comment une poignée de gens très riches vous tiennent les médias, les gens savent qu'on leur mente, et pourtant, quand on crie fasciste ou raciste, personne ne va dire le contraire, c'est fait. Le troupeau, il y a besoin de 3 chiens pour tenir un troupeau de 1000 moutons. Je crois que c'est... Quand les autorités... C'est dans la Sainte Écriture, hein. Je ne sais plus, je me souviens que j'avais vu ça dans le livre des Proverbes, ça m'avait frappé, mais je ne me souviens plus de la situation exacte. Je crois, enfin, si vous voulez, c'est quand le prince est pervers, le peuple va à sa perte. Mais c'est, vous voulez, le peuple va comme les lemmings qui courent, vous avez entendu parler des migrations des lemmings qui se suicident collectivement en se précipitant dans le vide. Eh bien, c'est vraiment populus coruat. C'est vraiment le peuple qui va au précipice quand le peuple est mauvais. Quand le prince est mauvais, le peuple va dans le précipice. Mais lui-même, vous voyez, c'est pas le peuple a peur et meurt de faim et très malheureux, c'est le peuple lui-même va dans le précipice. Quand le prince est mauvais, le peuple va dans le précipice. Ah ben si, il y a un énorme tas de cailloux, c'est pour ça qu'on retrouve tout maintenant. C'est-à-dire que les Juifs sont revenus. Vous savez... il reste quand même, quand les gens reviennent, eh bien, ils mettent 3 planches d'une tôle ondulée sur le bout de mur qui dépasse, et puis ils reconstruisent petit à petit, et reconstituent avec les pierres voisines, et puis Jérusalem s'est reconstitué comme ça. Mais il y a, la ville en ruine, les gens reviennent sur la ville en ruine, ça fait une énorme comment, carrière de pierre, et puis on construit par-dessus. Ah non, c'est très antérieur, la diaspora. Ça date de l'exil à Babylone. C'est dans le prophète, c'est Jérémie. C'est dans Jérémie, une partie des Juifs. Les Juifs ont été déportés par vagues successives. Ils n'ont pas été déportés d'un seul coup. et il ne restait plus que les petites gens. Et à la dernière déportation, les petites gens ont décidé de quitter Jérusalem et de fuir chez les ennemis de Babylone, donc en Égypte.